Et si on partait sur Europe 1 tous les jours entre 16h et 18h, je vous emmène pour un grand voyage. Chaque jour, deux destinations, une en France, une au-delà des frontières, juste pour rêver. C'est parti.
16h, 18h. Et si on partait ? Philippe Googler.
Tout à l'heure, une destination qui comme ça sonne un peu moins exotique que d'habitude, mais qui est franchement une des plus sympathiques d'Europe. Là où l'accueil, la bonne ambiance, les bonnes tables font tout le charme du voyage, sans compter les petites pépites comme Bruges, comme Knokke-le-Zoet, comme Bruxelles ou Liège. Nous irons en Belgique tout à l'heure, après 17h. Et puis en première heure, là tout de suite, là ça sonne exotique et c'est sympathique. Une des plus belles destinations françaises, Outre-mer. Nous irons sur l'île de la Réunion avec un guide de choix, un pur réunionnais, avec le label, le tampon et tout, on a tout vérifié. Nous serons avec Manu Payet qui nous rejoindra dans quelques minutes. Et pour faire un beau voyage, il faut être bien accompagné. Nous avons les meilleurs, les plus affûtés autour de cette table. Nathalie Elal qui roule et amasse.
Oui, Pierre qui roule n'amasse pas mousse, hein, c'est ce qu'on dit. Bonjour à tous néanmoins.
Vous amassez les belles histoires.
Oui, les kilos aussi au passage.
Ah bon ? Pourquoi ?
Parce que ça boit beaucoup.
Ah bon ? Tiens, on va creuser ça. On va creuser ça pendant cette heure, c'est intéressant. Olivier Pouls, lui, il a chopé la meilleure place, c'est notre chroniqueur gastronomique.
Bah oui, pour question kilo, je suis pas mal passé aussi.
Très bien.
Et puis, on a deux belles destinations là, pour la gastronomie aujourd'hui.
Ah oui, parce qu'Olivier est belge, mesdames, messieurs. C'est pour ça qu'il a l'œil qui pétille aujourd'hui. Et puis, Jean-Bernard Carrier du guide Lonely Planet. Bonjour Jean-Bernard.
Bonjour, j'ai gardé la ligne jusqu'à présent et je crois que je vais la garder encore plus parce que si on va à La Réunion, c'est sportif.
C'est très sportif. La Réunion, on resitue rapidement.
Ouais, océan Indien, à 9200 km de Paris, ouais. 10 heures d'avion quand on pourra y aller dans des bonnes conditions de sécurité. C'est coincé, si vous voulez, l'île, elle est dans l'océan Indien, entre Madagascar d'un côté et l'île Maurice de l'autre. Île au relief évidemment très volcanique, à plus de 3000 mètres d'altitude pour le sommet. Un volcan actif et aussi un littoral, faut pas l'oublier, avec des plages du côté de la façade ouest de l'île.
Ouais. La Réunion, c'est vraiment, on l'appelle souvent l'île intense.
Parce qu'on y vit intensément, il y a des tas d'activités à faire.
Et puis surtout, il se passe beaucoup de choses. À chaque kilomètre, il y a un paysage différent. C'est assez incroyable. On va avoir le temps de détailler tout ça. Nathalie, les grands hommes, grands noms, grandes femmes de cette île.
Ben vous allez voir qu'il n'y a pas du tout de trou dans la raquette. Et justement, ça tombe bien parce que la mémoire de celui-ci est le plus souvent associée à un célèbre tournoi de tennis, alors qu'il a plutôt montré des talents pour l'aviation. Les Réunionnais connaissent ses exploits par cœur. Il s'agit de Roland Garros, qui est né le 6 octobre 1888 à Saint-Denis de la Réunion. Vous avez aussi un ancien Premier ministre, également ministre sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing et puis vice-président de la Commission européenne. J'ai nommé Raymond Barre, qui était né en avril 1924.
Il était réunionnais.
Ah ouais. Enfin, né, en tout cas, à Saint-Denis, absolument. Hein, réputé hein, comme le meilleur économiste de France à son époque, également maire de Lyon. Une Miss France, la 78e, Valérie Beg, élue en 2008, également comédienne, animatrice télé, née en septembre 1985 à Saint-Pierre. Mmh. Et puis là, on est dans un registre beaucoup plus littéraire, avec le poète le plus célèbre de l'île, Charles-Marie René Lecomte de Lille, dit plus simplement Le Comte de Lille, né en 1818 à Saint-Paul, sur l'île de la Réunion, nommé académicien au fauteuil de Victor Hugo, qui le soutenait et l'avait quasiment désigné comme son successeur en 1886. Et puis enfin, bah grâce à celui-ci, nos pâtisseries, nos parfums n'auraient ni goût, ni arôme, ni saveur. J'ai nommé Edmond Albius, né en 1829 à Sainte-Suzanne. C'était un jeune orphelin, noir et esclave sur une plantation quand il invente en 1841, à l'âge de 12 ans seulement, le procédé pratique de pollinisation et donc de fécondation de la vanille.
Ah ouais ?
Toujours utilisé dans le monde entier, qui a donné un vrai coup de boost à l'île.
Ah, j'imagine. Olivier Pouls, bah la vanille alors pour vous ?
Ben oui, la vanille à La Réunion, c'est incontournable. La vanille, les épices aussi, on va en parler avec les curry ou curry, comme on dit là-bas. Évidemment, le fameux rougail saucisse, hein, incontournable. Les fruits exotiques. Et puis, on arrose tout ça de rhum, tant qu'à faire.
Bien sûr.
Donc, autant vous dire que tout à l'heure, on va dérouler quelques spécialités réunionnaises. Et il y en aura pour tous les goûts.
Dans un instant, donc, notre grand voyage de La Réunion à la Belgique. Et puis, nous accueillerons, bien sûr, un pur réunionnais, un homme aux multiples talents, humoriste, acteur, réalisateur. Réalisateur, animateur radio, c'est tout faire. Manu Payet sera avec nous dans quelques secondes dans ce studio Coluche. À tout de suite.
16h, 18h. Et si on partait ? Philippe Googler sur Europe 1.
Deux heures de voyage tous les après-midi sur Europe 1, sans contraintes, sans frontières, sans passeport, sans virus, rien du tout. Juste pour le plaisir. Après 17h, je vous emmènerai en Belgique, le plat pays de Jacques Brel. Et puis là, tout de suite, nous sommes à La Réunion, qui est un endroit moi, que je trouve absolument magnifique. On pense toujours que quand on ne connaît pas, que c'est une île, voilà, une île paradisiaque parmi d'autres. Mais non, pas du tout. C'est d'abord un relief incroyable, façonné par les volcans. Il faut imaginer des éruptions, des coulées de lave qui se sont accumulées les unes sur les autres pendant des centaines et des milliers d'années, des pluies diluviennes par-dessus tout ça. Ça s'effondre, ça se creuse, ça crée des cirques perdus, des parois infranchissables. C'est très très beau et tout ça sur quelques kilomètres seulement. Et c'est ça qui fait la spécificité de cette île intense, comme on dit. Certains de ces cirques sont même classés au patrimoine mondial de l'humanité. Pour nous guider sur cette île magnifique, un pur réunionnais, donc Manu Payet. Bonjour Manu Payet.
Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Alors
bonjour.
Vous pouvez prononcer à la réunionnaise pour le coup.
C'est comment?
C'est Payet.
Ah c'est Payet?
Ah oui.
Et vous
bien
préférez
sûr.
Quoi vous alors du coup?
Ah bah moi écoutez, si je suis venu parler de la Réunion, faisons-le à la créole, disons Payet.
Payet.
Non mais c'est vrai parce que à la Réunion le thé de Payet se prononce, ouais. Figurez-vous. Et c'est ce qui fait déjà la première particularité du bonhomme que je suis, c'est-à-dire que ce n'est pas un thé muet.
Et alors, vous êtes né à Saint-Denis de la Réunion. À quoi ça ressemble une enfance à la Réunion?
Ah, oh, waouh! Vous avez 2 heures?
Oui, deux heures.
Allez, prenez de quoi noter. Écoutez, après, je peux pas. Généraliser, on n'a pas tous eu la même enfance. Moi, je suis un Réunionnais, vous l'avez dit depuis tout à l'heure, effectivement 100% pur jus, comme ceux, j'imagine, que vous avez un peu cités. Moi, je pars du principe que quand on y est né, mais enfin, moi, mes parents, mes grands-parents, mes arrières, tout le monde est né à La Réunion. Vous avez oublié de citer Michel Houellebecq, qui est né également à La Réunion. Moi, je suis un pur de... c'est vrai. Mais qui a eu la chance à un moment dans sa vie, dans son adolescence, d'avoir un papa qui travaillait pour Air France.
Ouais.
Et donc, j'ai pu voyager. J'ai pu beaucoup plus voyager que les autres petits camarades de classe que j'avais autour de moi à La Réunion. Donc, j'ai eu cette enfance métissée dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que je suis un... métisse moi-même, puisque mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents viennent de toutes les origines.
Ouais.
La Réunion, c'est la terre, c'est une grande réunion.
C'était comment l'ambiance à la maison? Votre maman était prof de caté, c'est ça?
Ah, l'ambiance à la maison, si vous voulez qu'on parle d'ambiance, c'est pas la compagnie créole que
bon
vous imaginez, vous.
J'étais comment?
Je sais pas, tout le monde s'est mis des fleurs sur l'oreille. Vous pouvez tout de suite les retirer. Ma mère est catéchiste, elle l'est toujours. Puisque c'est un CDI, en général, que tu signes quand tu deviens catéchiste. Et l'ambiance n'était pas forcément à la rigolade.
Ah bon?
Non, l'ambiance n'était pas à la rigolade.
C'est vous qui avez pris le contre-pied après, quoi.
En fait, je crois que je suis devenu qui je suis pour apporter un petit peu, déjà à l'époque, d'un petit peu de fantaisie dans le foyer.
Ouais.
Ma mère était enseignante et catéchiste. Mon père était absent, puisqu'il travaillait énormément. Donc, du coup, il fallait. La déconne n'est pas venue du diocèse. La déconne est venue de moi. Et ce qui m'a valu une carrière scolaire plutôt déplorable.
Vous avez fait toutes vos études à La Réunion?
J'ai fait une partie de mes études en Afrique du Sud.
En Afrique du Sud. Pourquoi en
Afrique
du Sud?
C'est pour ça que je parlais de métissage tout à l'heure aussi dans ma vie, dans les endroits que j'ai pu visiter. Parce que, mais tu vois, quand tu fais des conneries, que tes parents te disent si tu continues, je vais te foutre en pension.
Ouais.
Bah moi, ils l'ont fait.
Et en Afrique du Sud.
Et en Afrique du Sud.
Et pourquoi en Afrique du Sud?
Et parce qu'ils voulaient que ça frappe.
Marquer la distance.
C'est ça. Ouais. Et puis marquer le coup. C'était à l'époque où il y avait encore les punitions corporelles dans les pensions sud-africaines.
Et vous en avez subi?
Oui, 4. J'en ai eu 4. 4 coups de bâton.
Ah bon?
Ouais. Mais c'était... Alors, ça a été aboli quand Mandela est arrivé. C'est vrai, tout ce que je dis est vrai. Quand Mandela est arrivé...
Vous n'avez pas trop de séquelles, hein?
Non, aujourd'hui, après, on a de l'humour là-dessus. Ouais. Soit on a de l'humour, soit on est interné. Hein. Mandela est arrivé au pouvoir et devenu président en 1994. Et c'est l'année où il a aboli les punitions corporelles dans les établissements scolaires sud-africains. Et c'est l'année aussi où j'ai eu mon bac. En fait, il les a abolis quand j'ai arrêté l'école.
Voilà. Ouais, ça ne servait plus à rien.
Et ça ne servait plus à rien.
Bon. Et alors, qu'est-ce qu'il y a de créole dans votre caractère alors aujourd'hui?
Je pense que la façon que j'ai de m'adapter à... Ben déjà là, depuis que je suis assis ici, puisque je viens d'arriver et que j'essaye de faire comme si j'étais plutôt à l'aise et que ça a toujours été...
Parce que vous ne l'êtes pas?
Il est vachement intimidé, en fait.
Non, je suis Capricorne, Philippe. J'ai quelqu'un dans ma vie, ce n'est pas la peine d'essayer. Mais j'ai toujours un peu lutté depuis petit, ayant eu la chance donc de voyager. C'est un peu paradoxal ce que je dis, mais contre le fait qu'on remarque souvent que je pouvais venir d'ailleurs. Déjà de par mon accent que j'ai fini par perdre, de par la prononciation de mon nom.
Vous avez travaillé la perte de l'accent?
Oui, parce que j'ai commencé à la radio ici en métropole et on me l'a dit. On m'a dit, on a quand même, ça s'entend quand même que t'arrives pas du 15e.
Non, ça donnait quoi un lancement de disque en version avant?
Je vous le ferai pas parce que vous allez rire.
J'ai
pas envie que vous riez de ça.
Hein.
Non, mais c'est parce que. Non, mais. Je pense que je ne saurais pas exactement vous dire ce que ça donnait, mais eux entendaient quelque chose que moi, je n'entendais pas.
Parce que moi, je peux encore faire l'accent belge. Hein. Ah, ça, oui. C'est encore le faire.
Ouais, c'est vrai qu'il est bien. Oui, mais il est bien fait. Ouais. Il est bien fait.
Mais il est authentique.
Et puis, on sait que si on veut boire, il vaut mieux pas rire. Tu vois, ce que je veux dire. Non, mais voilà. Donc, j'ai perdu mon accent. Je me suis adapté, etc. Quand je suis arrivé à Paris, quand je suis arrivé en métropole il y a 20 ans, tout ce que je savais faire, c'était de la radio, moi. Après, dès que je sortais du studio, je ne savais même pas s'il fallait aller à droite ou à gauche. Combien de fois j'ai pris le métro dans l'autre sens?
C'est vrai. Qu'est-ce que vous voulez dire en disant ça?
Qu'il a fallu que je sais m'adapter maintenant, ouais. Aujourd'hui, je pense. Et que venant d'une île qui, tout à l'heure, on l'a resituée géographiquement, qui est vraiment à 9000, près de 10000 kilomètres de son pays, il faut que tu t'adaptes. Et ce n'est pas seulement la géographie, c'est aussi
difficile.
Le climat.
Ouais.
En décembre, chez nous, il fait 30 degrés.
Ouais. Et ça a été difficile, ça?
Bien sûr que ça a été difficile. Déjà, de par le climat, je suis arrivé en plein hiver, hein, 15 août. il a fallu s'adapter au climat, il a fallu s'adapter à la géographie, il a fallu s'adapter à cette grande ville qui était Paris, tout en ayant le même passeport que le mec qui était né là. Ouais. Donc, je pense que ça fait partie du manuel du créole qui émigre.
Bon. Manu Payet, vous restez avec nous. On va continuer à explorer votre réunion dans un tout petit instant sur Europe 1.
16h, 18h. Et si on partait? Philippe Googler sur Europe 1.
Nous sommes à La Réunion sur Europe 1 jusqu'à 17h avec Manu Payet. Alors, quand vous pensez à cette île, quels sont les paysages les plus forts qui vous viennent?
Alors, les paysages les plus forts qui me viennent, d'abord, c'est le paysage que je découvre quand je sors de l'aéroport. L'aéroport aujourd'hui qui s'appelle Roland-Garros. Tout à l'heure, on a parlé de Roland-Garros, qui est effectivement c'était un aviateur réunionnais. C'est ce que je vois en face de moi quand je sors d'aéroport, c'est-à-dire les montagnes, le début de quelques montagnes, parce que ce n'est pas les plus hautes montagnes, mais enfin, les montagnes des hauteurs de Saint-Denis, donc qui est le chef-lieu, c'est la capitale, mais on dit que c'est un chef-lieu puisqu'il s'agit d'un département. Et puis, je pense aussi surtout aux odeurs, à l'odeur. La première chose quand je sors de l'avion, c'est l'odeur. Je saurais dire les yeux bandés que je suis à La Réunion.
Ça ressemble à quoi cette odeur?
C'est tropical de La Réunion. À chaque fois, j'essaye de l'analyser, de me dire qu'est-ce que ça sent. Vas-y, tiens, t'y es là, vas-y, pose-toi la question. Et il y a un peu de tout. Il y a un peu de moi qui ai fait 11 heures d'avion, on va pas se mentir. Après 11 heures d'avion, tu peux tuer un douanier hein, si tu lui parles un peu trop près. Voilà, il y a ça. Et puis, il y a aussi la couleur, c'est-à-dire la photographie. Je saurais reconnaître sur une photo d'un ciel. Que c'est la photo d'un ciel réunionnais. Je sais pas si c'est parce que je suis né là-bas et que ça, voilà, la couverture du Lonely Planet là, que je vois très bien que c'est La Réunion, et même je le vois mal d'ici d'où là où je suis, mais je reconnais ces couleurs, ces odeurs. Effectivement, ce sont des paysages qui ne trompent pas. Et puis après, il y a la flore, il y a certaines fleurs aussi que je pourrais presque dire dans dans quel jardin, si c'est du nord ou du sud, de l'est ou de l'ouest, elle a poussé.
Et alors, les saveurs aussi, parce que vous êtes un gourmand, je le sais, les plats réunionnais qui vous plaisent, c'est quoi?
Vous dites ça parce que je porte du noir. Oui, j'ai beaucoup cuisiné encore cet été. J'ai fait un rougail saucisse il y a 3 jours de ça. J'ai été félicité.
Il
parce
paraît que
je commence
très, très
à le maîtriser.
Fort en rougail saucisse.
Ouais. Ah, ouais.
Alors, qu'est-ce que c'est le rougail saucisse? Il faut peut-être préciser, on ne sait pas tous ce qu'est le rougail saucisse.
Le rougail saucisse est le plat réunionnais qui plaît le plus aux métropolitains. C'est-à-dire que quand tu veux te faire découvrir, en général, un plat de la cuisine réunionnaise à un métropolitain et une métropolitaine, moi ça a été plus ou moins métropolitaine, tu lui fais un rougail saucisse. En général, ça déçoit rarement quand tu le réussis correctement. Ce sont des saucisses, de la saucisse de chez nous, ou alors ici, pour celle qui va se rapprocher un petit peu plus de la saucisse réunionnaise, on va prendre la saucisse de Montbéliard. Mmh. Moi, je trouve que c'est celle qui s'en rapproche
un petit peu
fumée.
Vous voulez dire que le meilleur rougail saucisse réunionnais est fait que de la saucisse de Montbéliard, c'est
quand ça tu le fais en métropole.
Ah,
ne faites pas dire ce que j'ai pas dit, Philippe. Non, vous voulez que je perde mon passeport?
Je voulais une précision.
Moi, je trouve que la saucisse de Montbéliard, effectivement, parce que la saucisse réunionnaise, elle est très dure à trouver. Et puis, c'est vrai que c'est difficile de s'en passer une fois que tu as goûté. Enfin, ici, tu es bien obligé. Et puis, des oignons, des tomates. Restons là-dessus. On peut faire un très bon rougail saucisse uniquement avec
des
ces trois ingrédients. Franchement, tu peux faire avec ces trois ingrédients-là un très bon rougail saucisse. Après, c'est du dosage, c'est de la cuisson.
C'est plus ou moins épicé aussi.
Hein, et doser, après, tu peux rajouter du piment, tu peux rajouter du gingembre. Après, il y a des versions, hein, effectivement. Ouais. Hein. Mais le rougail saucisse est, je dirais, voilà, ça n'engage que moi, pour un expat, le plat le plus simple à réaliser.
Et alors, le vrai, si vous ne voulez pas éblouir un expat, le plat qui vous plaît vraiment?
Ah, bah là, non, mais là, Philippe, là, j'aurais dû mettre une cravate, là. Attention, là, on commence à parler sérieusement.
Les bichiques.
Ah, putain, vous voulez me faire dire des gros mots. Bichiques, c'est magnifique.
C'est quoi les bichiques?
Ah, les bichiques, c'est notre caviar.
Le caviar réunionnais.
Ce sont des alevins, c'est des tout petits poissons qu'on dit aussi...
Des goujons, hein.
Non, attends, alevins, ouais, des alevins, où il y a aussi cibelles ou un truc comme ça.
Cibelles.
C'est les pibales d'ailleurs
dans la Loire,
dans la région bordelaise.
C'est les petites anguilles en fait.
C'est des alevins de poisson. Ouais, c'est ça.
C'est des alevins de poisson qui ressemblent à des bébés anguilles. Ce ne sont pas des bébés anguilles.
C'est très rare et c'est très cher.
C'est très rare, c'est très cher.
Et c'est très saisonnier.
C'est pas tout le temps, c'est très saisonnier, exactement.
Et c'est pas un peu protégé aussi?
En vraiment, je crois, oui.
Comment je crois que quand ils sont à la marmite, moi je les protège, je me mets devant la marmite. Pas le droit de les toucher.
Des limites de pêche quand même assez fortes.
Ça c'est magnifique. Et alors ce qui était très drôle, c'est que pour l'anecdote, c'est que c'est donc comme des alevins, donc ce sont des tout petits poissons, tout fins, qu'on mange évidemment entiers. Et je me souviendrai toujours de ces amis métropolitains qui étaient venus en vacances à La Réunion. Des collègues d'Air France de mon père. Alors quand les collègues d'Air France arrivaient de la métropole, mon père sortait, les mettait les petits plats dans les grands. Attention, vous tiendrez bien, hein, ces gens de la métropole. Alors, tout le monde se tenait bien, sauf qu'on avait fait des bichiques, donc on s'était saigné pour leur acheter des bichiques, et ils coupaient les têtes. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils font? Alors je dis à ma mère discrètement, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de couper les têtes, ces abrutis. C'est pas grave, on les bouffera après.
Les têtes, tu coupes, t'imagines?
Quand tu coupes la tête des petits alevins, il reste plus rien à bouffer. Non, après, ils avaient encore faim.
On m'a dit que vous étiez le roi des litchis réunionnais aussi.
Ah, ça, c'est magnifique, ça. Les litchis, c'est décembre. Décembre, à la période où ici, il commence à faire très, très froid. Ah ben, il n'y a rien à faire si tu restes dessous. Ouais. Après, si. Si. C'est agréable de casser. C'est agréable d'aller les casser. Moi, je me souviens qu'on râlait toujours quand on était gamin, parce que quand il n'y avait pas de dessert, parce que nous, on voulait un dessert, on voulait un yaourt un peu... Voilà, un truc qui a été fabriqué en usine. Et mon père, il disait, il n'y a pas de dessert, vous démerdez, vous avez cassé une mangue, il y a des litchis dans le jardin. Et je me souviens qu'on râlait. Oh non, encore des litchis. Aujourd'hui,
alors 29 euros le kilo ici sur le marché
quoi.
En décembre.
Alors, le problème, c'est que les vrais litchis authentiques, tels que vous avez la chance de les manger là-bas, nous, on les connaît très peu ici en métropole. Ouais. L'image du litchi qu'on a, c'est les litchis en boîte.
Oui, un peu
flasque. Le dessert des restaurants chinois, qui n'a strictement aucun intérêt. Mais trouver des vrais litchis, en plus frais, comme vous pouvez les manger, c'est une expérience complètement incroyable.
Mais pourquoi ça voyage mal, le litchi?
Bah, comme beaucoup de fruits, ça voyage pas très bien.
Il faut l'attraper vite, dès qu'il arrive. De toute façon, il garde sa couleur rouge quand il est encore bien rougeoyant. En général, on n'a jamais vu un litchi comme quand on l'a cassé ou quand il est sur l'arbre. Donc, c'est mois de décembre, allez, fin novembre si on a un peu de chance, mais début décembre, il faut commencer à guetter un peu les étals ici, des gens qui font venir des litchis de La Réunion. Je dis de La Réunion parce qu'avec l'ananas Victoria, je pense que ça fait partie des meilleurs au monde. Mais vraiment, c'est
l'ananas
pas...
Victoria.
Ah oui, d'ananas.
Magnifique,
ouais,
ça.
Ouais, Victoria. Il faut toujours acheter Victoria. Et quand vous, quand vous voyez qu'ils viennent de La Réunion, vous, bah, dites-lui que vous, vous venez de ma part. Vous ne serez pas déçus.
Le problème, c'est qu'ils voyagent en avion, ce n'est pas très écolo. Mais bon, c'est bon quand même.
Ah, bah ça, le problème, ouais. Oui, c'est qu'à un moment, il va falloir les faire venir avant qu'ils soient pourris. Oui, ça, c'est sûr.
Juste un truc, Manu Payet. Vous
allez les manger là-bas.
La Réunion, pour ceux qui la visitent, ce qui est très très fort dans ce pays, et ce que moi j'ai trouvé en la visitant, c'est ces cirques complètement perdus au bout du monde. Il faut marcher des heures pour y aller. Il n'y a pas d'autre moyen que la marche à pied pour y aller. Et il y a des villages perdus au milieu de ces cirques. C'est des endroits que vous avez fréquentés, que vous connaissez, qui vous inspirent quoi, ça ?
Bien sûr, c'est des endroits qui m'inspirent une sorte de une humilité. C'est des endroits que je suis allé voir petit. Avec mes parents, qui ont voulu me montrer comment vivait une partie des gens qui sont pourtant à vol d'oiseau à très peu de kilomètres de nous, où nous avions la chance d'être en ville, comme on dit, en ville, avec le confort d'un citadin de notre siècle. Et puis à côté de ça, bah, effectivement, tu peux dire à côté de ça, parce qu'à vol d'oiseau, c'est vraiment pas loin, des gens qui vivent dans des contrées très reculées, et pourtant où tu peux trouver une certaine paix. Et donc ce qui t'apporte à toi cette humidité quand tu sais que ces gens-là sont réunionnaises et réunionnais comme toi. Donc c'est effectivement ces cirques qui, en plus d'être des paysages absolument sidérants, parce qu'il y a des moments, tu peux te croire dans Jurassic Park,
ouais,
à certains,
ouais, c'est
à
Jurassic certains Park, endroits. C'est ça, ouais.
Ah ouais. La Réunion est une terre développe de plus en plus de cinéma, parce que si tu retournes ta caméra, tu es dans Jurassic Park, tu vas de l'autre côté, tu es dans Life on Mars ou je sais pas quoi. Quand tu vas au volcan, tu as l'impression d'être sur la planète Mars.
Et c'est vrai qu'il y a des villages qui sont coupés de tout là-bas. Enfin, il faut 3-4 heures de marche ou 5 heures de marche pour y aller.
Oui.
Ou l'hélicoptère. Et ils se font ravitailler pour les courses souvent par hélico. Il y a des norias quand ils ont de la chance.
Exactement. Ce sont aujourd'hui des gens qui ont peut-être qui peut-être pourraient partir peut-être plus facilement. Je veux dire, il y a sûrement un endroit où on est bien là-haut aussi.
Mmh. Ah, oui.
C'est pas des gens qui sont forcément obligés. Et puis des gens qui ont grandi là-haut, c'est des gens qui cultivent là-haut. Je pense à Silos, les lentilles de Silos. Je regardais encore un reportage magnifique sur France O. Profitons-en. Hein. Il y a encore quelques semaines sur les cultivateurs de lentilles à Silos, qui font partie aussi de ceux qu'il faut goûter. Ils aimeraient peut-être de temps en temps descendre un petit peu plus à Saint-Denis ou en ville de Saint-Gilles ou je ne sais pas où, mais enfin, il y a parfois des fois où je dis que ça force le respect, ça force l'humilité. Et qu'est-ce que c'est beau, et qu'est-ce que c'est beau de les entendre parler, ces gens des générations d'avant, ces gens des hauts, comme on appelle ça.
Ouais, les gens des hauts, c'est
ils
ça.
Ils ont peut-être moins de Covid chez eux, d'ailleurs.
Ouais. Je ne sais pas.
Ouais, je ne saurais pas, mais oui, peut-être que tu as raison.
Merci beaucoup, Manu Payet, d'être venu nous parler un peu de votre réunion. Il y aurait beaucoup plus à en dire, évidemment. On va vous retrouver très très tôt, lundi matin.
Oui, parce que je fous là. Ouais. Je suis en train de dormir.
Aller vous coucher, ouais.
Je suis venu parce qu'il y a les poules. J'ai eu un coup d'eau de fontaine.
Vous êtes déçu. Hein. Mais faut rester plus.
Non, il n'a pas encore donné le meilleur de lui-même. Là.
Non, ça va venir.
On m'a dit qu'on allait déguster des choses de La Réunion. Il n'y a rien bouffé.
Mais surtout, tu m'as dit je vais amener le rhum arrangé de ma mère. Alors, j'attends aussi celui-là.
Donc, je rappelle que vous faites votre grand retour à la radio en animant le Virgin Tonic donc, dès lundi matin sur Virgin Radio. Et puis il y a toujours votre spectacle Emmanuel, vous allez le reprendre en tournée.
Ça y est, c'est fini, on a fait 250 dates d'Emmanuel, il est bien au chaud pour tous ceux qui veulent voir sur MyCanal.
D'accord, très bien. Merci Manu Payet.
Merci à vous.
Au revoir. Au revoir. Dans un tout petit instant, les pépites de Nathalie et là, les belles histoires qui se nichent dans les profondeurs de l'île de La Réunion. À tout de suite sur Europe.
Europe 1, Philippe Googler.
Nous nous baladons à La Réunion jusqu'à 17h sur Europe 1 et puis après nous partirons en Belgique, ça promet d'être assez savoureux aussi. Nathalie Elal.
Oui.
Alors, quand on se balade à La Réunion, il y a un mot qu'on entend tout le temps, c'est le mot « oreille ». Qui c'est les oreilles ?
Alors les oreilles, pas les grandes ni les petites, hein, ça fait juste référence à la communauté métropolitaine qui vit sur l'île ou qui est en vacances aussi sur le territoire. Alors il y a les oreilles et puis il y a aussi d'autres communautés créoles, par exemple les petits blancs des hauts, c'est-à-dire des gens qui ont la peau claire, mais généralement un statut social peu élevé. Ils ont vécu sur la partie de l'île qui n'est pas sur le littoral. Mmh. Vous avez aussi les gros blancs, c'est-à-dire l'ascendance.
C'est sympa.
Oui, c'est comme ça. C'est très basique, finalement. L'ascendance aristocratique.
Mais on les appelle vraiment les gros blancs.
Ah oui, les gros blancs. Les malbars. Alors ça, c'est des gens d'origine indienne. Les arabes, je dis bien arabes avec un Z, ce sont les musulmans du sous-continent indien, enfin originaires d'eux. Les chinois et les cafres, qui sont des noirs d'Afrique australe, Guinée, Congo, Afrique du Sud, etc. etc.
Bon. Et alors, la signification exacte de oreilles, ça vient d'où ?
En fait, il y a plusieurs hypothèses. Et la plus répandue, c'est celle qui raconte que les métropolitains tendent l'oreille pour comprendre le créole.
C'est-à-dire
qu'autrefois, ils se mettaient dans ce qu'on appelait le guétali. Alors, guétali, c'est assez drôle, je trouve, cette expression. C'est un petit kiosque, en fait, qui donne sur la rue et qui est situé à l'angle d'une cour. Et en fait, ça vient de « regarde-le » en créole. C'est le guet à lui, le guet à lui. On guette quelqu'un. Et donc, on pouvait observer sans être remarqué depuis ce petit kiosque. On avait les oreilles qui traînent. Mais il y a aussi...
J'ai pas compris. C'est-à-dire que les métropolitains se mettaient dans un kiosque.
Ils se mettaient dans un petit guet à lui, le petit kiosque qui donne sur la rue, qui permettait d'observer ce qui se passait dans la rue sans être eux-mêmes vus.
Ah, et pourquoi ils se mettaient, ils se cachaient ?
Ben justement, pour espionner.
Ah, d'accord.
Bon. Du voyeurisme, quoi.
Et c'est comme un paravent, mais en forme de kiosque.
D'accord. Et vous voulez espionner quoi ?
Eh bien, ce qui se passait, ce qui se disait dans la rue.
Ah, okay.
Les potins.
Très bien.
Essayer de comprendre ce qui se disait en créole, surtout. Et puis, il y a une autre explication au terme « oreilles », toujours, c'est que quand les métropolitains débarquent à La Réunion, bah, leurs oreilles deviennent rouges du fait de la chaleur tropicale. Et puis, une dernière explication, là, on est quand même un peu moins fun, c'est que les Blancs coupaient les oreilles des esclaves qui s'échappaient des plantations. Et on dit que les chasseurs d'esclaves marrons, je vais vous expliquer ce que c'est, justement, ils rapportaient les oreilles coupées comme preuve pour toucher une rémunération.
Ouais, ça, c'est moins drôle.
Ouais.
Alors, l'esclave marron, d'ailleurs, c'est vrai qu'on associe toujours les deux mots là-bas. Pourquoi ?
C'est une vraie histoire, hein, là-bas. En fait, pour cultiver les champs de canne à sucre, les planteurs utilisaient donc, vous le savez, malheureusement, des esclaves, hein, qui étaient une main-d'œuvre servile, bon marché, en provenance généralement d'Afrique de l'Ouest. Et évidemment, ces esclaves, et on les comprend, n'avaient qu'une idée en tête, se faire la malle. Donc, ça, on appelait ça la fuite ou encore le marronnage.
Ouais. Et ça a un rapport avec la couleur de la peau ?
Ben non, justement, ça n'a rien à voir. Parce que le marronnage, pardon, ça voulait dire faire que le maître soit marron en le laissant se débrouiller avec ses plantations. En fait, c'est de l'argot des Antilles. Faire marron quelqu'un, hein, c'est le laisser comme ça dans la panade. Donc, et au départ, le mot était employé pour désigner un animal apprivoisé redevenu sauvage après s'être enfui et c'était pas pour désigner les esclaves. Mais ça a été ensuite valable pour toutes les colonies esclavagistes. Et à La Réunion, eh bien, ce système de marronnage, il aurait débuté dès l'arrivée des tout premiers Noirs. C'est-à-dire que dès novembre 1663, lorsqu'il y a un capitaine qui s'appelle Louis Payen et qui est le premier à débarquer dans la baie de Saint-Paul pour s'y installer, il a avec lui un ami français et puis 7 malgaches et 3 femmes noires et tous vont s'enfuir immédiatement dans les montagnes et ce sont les premiers déserteurs marrons.
Et ils allaient se réfugier où après leur fuite dans les cirques, j'imagine ?
Alors,
dans les
effectivement,
perdus.
En général, ils s'enfuyaient dans les montagnes et puis les hautes forêts du centre de l'île où ils réussissaient à vivre, hein, parfois durant des années sans être inquiétés. Et ils se sont effectivement installés dans ces fameux cirques de l'île parce qu'il y avait un accès difficile. Et certains qui étaient encore plus aventureux ont même tenté de rejoindre l'île de Madagascar.
Alors j'imagine qu'ils se cachaient et qu'on les cherchait aussi.
Ah oui, alors là, c'était pas drôle du tout. Il y avait des expéditions dans les hauteurs pour capturer de nouveau les fuyards. Alors on leur coupait l'oreille, justement, je l'ai expliqué. On les marquait au fer rouge, à la fleur de lys. Et s'ils s'enfuyaient encore, on leur coupait un jarret. Oh. Et la troisième fois, c'était la mort.
Mais ils pouvaient plus partir après.
Ah ben, ça, c'est sûr. Enfin,
hein.
Pas forcément les deux jarrets, mais enfin, la mort, mais de manière démonstrative, de façon à faire peur, finalement, et à dissuader les autres. Et à partir de 1725, on a carrément réglementé la chasse aux marrons. C'est-à-dire qu'on promettait aux gens une somme très coquette en échange de leur capture, mort ou vif, hein, peu importe. Mmh. Et certains de Lille se sont même fait une spécialité de leur chasse. Il y a un individu absolument épouvantable qui s'appelait François Mussard au XVIIIe siècle qui pourchassait les marrons dans tous les coins de Lille accompagné de ses hommes. Et puis le plus souvent, les tuait sans sommation. Alors, il paraît que lui, il était largement récompensé par la Compagnie des Indes, une grande compagnie coloniale, pour son efficacité. Et puis à noter quand même qu'au moment de l'abolition de l'esclavage en 1848, les marrons sont descendus des cirques justement où ils se réfugiaient pour louer leurs services.
Je précise d'ailleurs que l'abolition de l'esclavage à La Réunion, donc chaque année, le 20 décembre, c'est un jour férié qui est très fêté à La Réunion.
Ouais. On le comprend.
Avec cette histoire lourde, oui.
Merci beaucoup Nathalie Hélal. Dans un petit instant sur Europe 1, on continue à explorer la Réunion. Côté saveur,
ce sera
fois-ci.
Plus joyeux. Hein.
Ouais, là. Non, mais c'est intéressant, ça fait vraiment partie de l'histoire.
C'est vraiment une histoire indélébile.
Du pays.
Et pas la partie la plus glorieuse. Oui.
Oui. À tout de suite sur Europe 1.
Nos escapades continuent tout de suite en toute sérénité avec Shiva, ménage et repassage à domicile.
16h, 18h. Et si on partait ? Philippe Googler sur Europe 1.
Nous sommes sur l'île Intense, sur l'île de la Réunion, jusqu'à 17h sur Europe 1. Juste après le flash de 17h, nous irons en Belgique. C'est votre fête aujourd'hui, Olivier Pouls.
Oui, pourtant la fête nationale belge, c'est pas aujourd'hui, hein, c'est le 21 juillet, mais je le prends comme un cadeau. C'est vrai que j'avais posé comme condition de venir vous voir si on pouvait s'arrêter en Belgique.
Mais oui,
merci de le
faire. Parce que vous êtes belge.
Bah oui, autant le dire.
Soulignons-le. Et
plus
puisque vous adorez la Réunion.
mais j'adore la Réunion, j'ai eu la chance d'y aller, j'adore cette île.
C'est vrai, mais on l'aime tous et c'est souvent une île vraiment inattendue parce que, comme je disais tout à l'heure, on pense qu'on va sur une île paradisiaque, on va aller à la plage et voilà, mais c'est bien plus
que ça. C'est très différent de l'île Maurice, par exemple, qui est juste à côté et qui, là, pour le coup, est une île paradisiaque avec des plages magnifiques. Il n'y a pas tellement de plages de rêve à La Réunion, mais par contre, il y a des décors, il y a des forêts incroyables.
Des décors dantesques, des parois vertigineuses, volcans actifs également. Les Réunionnais vont assister aux éruptions régulières, on en parlera tout à l'heure avec Jean-Bernard Carrier, le piton de la Fournaise qui entre en éruption. C'est un spectacle local, parce que ce n'est pas forcément super dangereux, mais la lave qui rougeoie dans la nuit sur les sommets, c'est magnifique.
Autant il faut partir à l'île Maurice avec des bonnes tongs, autant à l'île de la Réunion, vaut mieux des bonnes chaussures de marche. Il ne faut pas se tromper quand on fait sa valise.
Absolument. Et donc, en plus, on mange bien.
Et en plus, on mange bien, oui. Il y a une vraie gastronomie réunionnaise. On a commencé à en parler tout à l'heure avec Manu Payet. Il y a une grande influence indienne, en réalité, à la Réunion, avec ses épices, ces fameuses épices qu'on retrouve dans beaucoup de plats. On appelle ça des currys plutôt en Asie et des caries à la Réunion. C'est exactement la même chose. En fait, c'est un mélange d'épices. Il faut savoir que le curry n'est pas une épice en soi. C'est un mélange d'épices que chacun fait dans sa famille de manière un petit peu différente, avec une base de curcuma, bien sûr, de piment qu'on dose plus ou moins fort si on veut un curry relevé ou un curry plutôt doux, de la coriandre, du gingembre, de la cardamome, du clou de girofle. Bref, tout ce mélange d'épices concassées qu'on va ajouter de manière très parcimonieuse au plat, parce que toute la difficulté quand on fait un curry ou un curry, c'est de doser l'épice. Il ne faut pas qu'il y en ait trop, parce que sinon ça écrase tout. Ouais. Ça écrase le goût de la viande, ça écrase le goût des poissons ou des légumes. Mais il ne faut pas qu'il y en ait trop peu non plus, parce qu'on ne le sent pas. Donc c'est vraiment un dosage, une alchimie très difficile quand on fait un curry de volaille, par exemple. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut toujours mettre l'épice très tôt dans le plat, pour que tous les aliments qu'on va y mettre commencent à s'en imprégner tranquillement. Donc on va faire revenir sa volaille, on va mettre ses légumes, un peu de bouillon éventuellement, puis on va mettre l'épice assez vite de manière à ce que ça puisse s'en imprégner.
Et on peut trouver les bonnes épices ici en métropole ou
oui, alors très franchement, c'est vrai que quand vous allez à La Réunion, vous avez des marchés incroyables, vendeurs d'épices très colorés. Là, pour en ramener, vous allez trouver plein de choses. Mais c'est vrai qu'on est bien servi ici, on en importe. Alors que ce soit les épices réunionnaises ou beaucoup d'épices vendues à La Réunion, en fait, ne sont pas produites à La Réunion. Elles viennent en général d'Asie, sauf la vanille. Et là, tout à l'heure, Nathalie en a parlé. La grande fierté de La Réunion, c'est évidemment la vanille. Il faut savoir que La Réunion a été, dans les années 1930, le principal pays, enfin région productrice de vanille dans le monde. On y produisait 3/4 de la vanille mondiale à La Réunion. Et puis, malheureusement, les choses ont périclité. On en produisait, figurez-vous, 1200 tonnes dans les années 30. Aujourd'hui, c'est 10 tonnes. Ah oui, c'est devenu... Alors, on continue
c'est
à faire,
plus rien du tout,
c'est plus rien du tout par rapport au géant qu'est Madagascar à côté, qui a pris le leadership complet sur la production de la vanille. Mais la vanille, la vraie vanille Bourbon, la vanille de la Réunion, reste extraordinaire. Et la vanille Bourbon s'appelle comme ça parce que l'île s'est appelée l'île Bourbon avant de s'appeler la Réunion. Et donc, elle a donné son nom à cette vanille qui est franchement l'une des meilleures du monde.
Et par rapport à la vanille de Polynésie ?
Elle est différente, vous savez, les vanilles, c'est un peu comme les vins, les thés, en fonction des régions dans lesquelles elles poussent, en fonction du climat, en fonction de la nature des sols, elle va avoir des goûts différents. On rappelle que la vanille, en fait, c'est issu d'une fleur qui est l'orchidée, hein, et qu'il a fallu polliniser, et qu'ensuite on obtient cette gousse qui va faire la vanille. Mais en fonction des territoires, il y a une notion de terroir également pour la vanille qui est très intéressante. Puis, je vous parlais de la vanille, mais parlons aussi de quelques autres petites spécialités qu'on n'a pas évoquées tout à l'heure. Bon, le rougail, rapidement, mais il y a le bouchon, par exemple, qui est très connu.
Bouchon, qu'est-ce que c'est, le bouchon ?
Alors, c'est une petite bouchée de viande à la vapeur qu'on mange beaucoup à l'apéro. C'est très agréable. C'est vrai que c'est un petit côté vapeur asiatique,
ouais.
Mais c'est de la viande avec quelques épices et on cuit ça à la vapeur, c'est délicieux. Qu'il faut, quand on va à La Réunion, manger du cœur de palmier frais.
Ah,
parce
oui.
que là aussi...
Parce qu'on connaît que le cœur de palmier en boîte,
bah,
qui est quand même pas folichon.
Et franchement, qui n'a aucun intérêt.
Ouais.
Mais si on a la chance de déguster du cœur de palmier frais à La Réunion ou à l'île Maurice, parce qu'on en trouve là aussi, simplement avec une petite vinaigrette, c'est absolument
incroyable.
Mais ça a
quel goût alors le frais parce
C'est
qu'on le
très
pas.
Délicat, c'est un côté un peu croquant, c'est très fin en goût, c'est très subtil. Alors vous le décrire, c'est difficile parce que...
Bah, ça ressemble à ce qu'on mange en boîte ou pas du tout?
Non, parce que en fait la texture change beaucoup. Ce qu'on mange en boîte, c'est un peu spongieux, c'est dur, mais pas un peu caoutchouteux, j'ai envie de dire.
Et puis c'est fade.
Et
surtout.
Puis c'est fade. Alors que quand on a du cœur de palmier frais, c'est un vrai goût unique. Et
ça vaut
vraiment
cher,
goûter
hein.
ça.
Ça vaut,
et puis
assez
ça,
cher.
Ça vaut assez cher parce qu'en fait, avant d'obtenir le cœur de palmier, il faut faire pousser le palmier et ça dure 4-5 ans.
Et c'est, donc, des
savoir, c'est des vrais palmiers. Ouais. C'est des vrais palmiers. Donc quand on coupe le palmier, on en récupère le cœur, on va le traiter. Bah, malheureusement, on n'en a pas beaucoup, quoi. Ça met du temps à pousser.
Et qu'est-ce qu'on boit avec tout ça ?
Eh bien, un petit peu de vin. Il faut savoir qu'il y a eu historiquement un vignoble à La Réunion, hein, planté dès 1665, figurez-vous, dans un des cirques, le cirque de Sillaos, en altitude. Alors, il reste aujourd'hui une cave coopérative, quelques petits producteurs irréductibles. On ne peut pas dire que le vin soit extraordinaire, mais voilà, bu sur place, ça a son charme.
Avec la vinaigrette, ça peut passer.
Quand on dit ça en général, c'est pas très bon signe.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que historiquement, il y avait un cépage local qu'on appelait le cépage Isabelle, et qui était interdit en 1975, car on prétendait qu'il rendait fou.
Ah bon, comme l'absinthe.
Voilà, et donc on a interdit ce cépage. On
a une mauvaise réputation en fait, qui a traîné sur le
cépage qui rendait fou. Alors, j'ai pas eu le temps de goûter, malheureusement.
Vous avez tout vos esprits, Olivier.
Voilà. J'en ai pas trop bu. Et puis évidemment le rhum, mais je crois qu'on n'a plus trop le temps. Le rhum agricole qui évidemment est le meilleur, celui issu de la distillation du jus de canne. Et on évite le rhum industriel qui lui est quand même beaucoup moins intéressant. Un petit tipon, ça vous dirait par exemple?
Bien sûr. Hein, voilà. Merci Olivier. Dans un petit instant, les bons tuyaux, excellents tuyaux même de Jean-Bernard Carrier pour découvrir La Réunion. Pour l'instant, un petit air que vous connaissez, c'est... un titre utilisé dans une pub très connue. Voici Weezer, Island in the Sun, sur Europe 1, bien évidemment.
Europe 1, Philippe Googler.
Et nous voyageons, vous le savez, tout l'été sur Europe 1, entre 16h et 18h. Tout à l'heure, après 17h, une destination un petit peu moins exotique que d'habitude, mais sacrément sympathique.
Que d'habitude, c'est dans, et dans une deuxième heure, un voyage très lointain en Belgique.
C'est ça. Donc ça, c'est après le flash de 17h. Mais là, pour l'heure, nous sommes à La Réunion avec Jean-Bernard Carrier et ses bons conseils. Alors, on n'a pas encore beaucoup parlé du volcan, le Piton de la Fournaise. Rien que son nom fait peur, Jean-Bernard.
Sa majesté, le Piton de la Fournaise. Vous savez que je suis comme les Réunionnais, je suis tombé amoureux de ce volcan. On lui voue un culte sur place, un vrai culte, hein. C'est incroyable. Les Réunionnais sont dingues de ce volcan et j'ai vraiment compris pourquoi quand j'étais sur place. Vous savez que c'est l'un des volcans les plus actifs du monde. La dernière éruption date de février 2020 et en 2019, il y a eu 5 éruptions. Donc il est tonique, il est vigoureux.
Ça rigole pas du tout.
Il n'arrête pas. Il est tout le temps en éruption, très régulièrement en éruption.
Mais pas forcément des éruptions dangereuses.
Voilà, justement. Et justement, quand il y a une éruption, vous avez des files de voitures sur l'unique route qui mène au volcan. Mmh. Tous les gens vont se précipiter pour voir ces coulées de lave sur les flancs du volcan. C'est un des grands spectacles de la Réunion. Et en plus, ce volcan, quand il n'est pas en éruption, il est très facile d'accès. Et là, je voudrais vraiment vous expliquer comment on y arrive. Il y a une route qui fait 30 km. Elle commence d'abord par traverser un paysage un petit peu de bocage normand, avec des vaches. Vous faites une 25 km. Et à un moment donné, vous arrivez sur une crête, vous êtes à 2500. C'est presque ça. Vous êtes à 2500.
Ça, c'est la vache qui s'enfuit devant la coulée de l'air.
Et vous êtes sur ce haut plateau, vous avez traversé ces paysages de bocage. Et soudain, c'est ça la bascule. Vous avez devant vous ce qu'on appelle la plaine des sables, un paysage à la Mad Max, complètement lunaire. Vous passez du bocage normand à cette étendue complètement désertique et lunaire. C'est l'approche du volcan. Là, ça y est, vous êtes passé sur la Lune, un paysage absolument incroyable, des palettes de couleurs ocre, gris et noir. Et ensuite, on descend en voiture dans cette plaine des sables. On continue 5 km, on remonte un petit peu, et là, on arrive sous le belvédère. Et là, vous voyez tout le volcan face à vous. Mmh. C'est l'un des volcans les plus accessibles au monde. Pour les plus sportifs, ce que j'ai fait également, eh ben vous descendez dans l'enclos du volcan, c'est la grande cuvette, et vous remontez sur le flanc du volcan jusqu'au rebord du cratère. Ça vous fait une petite marche quand même de 5 heures aller-retour, c'est un petit peu physique, mais alors vous avez un paysage surnaturel.
Mmh. Et au bord du cratère,
vous avez un trou de 400 mètres, vous avez des fumerolles au fond, ouais. c'est vraiment un paysage absolument dantesque.
Et si vous êtes paresseux comme moi, vous pouvez y aller en ULM.
Eh ben voilà, l'ULM, vous faites un survol du volcan, c'est absolument mémorable.
Je l'ai fait et on s'est fait prendre dans une tempête, j'ai eu la peur de ma vie.
Ah bon,
c'était dantesque, l'ULM était secoué, mais comme une feuille dans le vent, on a fini par réussir à atterrir. Se jeter à 5 ou 6 sur l'ULM pour éviter qu'il ne s'envole une fois qu'il avait touché le sol, pour le bloquer, c'était incroyable.
Et vous avez atterri sur le sommet ou en bas ?
Non, on a atterri en bas, on a fait le tour du sommet, on voyait les nuages qui arrivaient, c'était dantesque, c'était magnifique, mais je peux vous dire que j'ai très 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 peur.
Ah, c'est bon ça. Enfin, il faut bien calculer son coût parce qu'effectivement, la météo est très changeante sur le volcan, y compris quand vous faites cette balade à pied. Il faut être très prévoyant.
Et alors, si vous les êtes vraiment casse-couilles, il y a un engin que j'ai essayé là-bas. Ça s'appelle le gyrocoptère. Ah, alors, en fait, c'est un ULM hélicoptère.
Avec une espèce de moteur dans le dos.
Avec une espèce de moteur à tourneuse à gazon et une hélice d'hélicoptère.
Ah, ouais.
Je suis monté, je vous assure que je ne le ferai plus jamais de ma vie.
Ça fait quel effet ? Parce que je voulais le faire en fait.
Vous êtes comme sur un tapis volant avec une hélice d'hélicoptère au-dessus de votre tête. Vous n'avez quasiment pas de bord sur les côtés. Vous montez à 3000 mètres et vous êtes terrorisé. Juste terrorisé.
Non, je crois que je ne vais pas le faire finalement.
3000 mètres quand même.
Non, mais rien ne vaut une bonne randonnée sur les pentes du volcan, sous la lave solidifiée, toute noire, là, c'est magique.
Ouais. Alors, il y a la randonnée à La Réunion, évidemment, c'est spectaculaire, notamment dans ces cirques qui ne sont accessibles qu'à pied.
Alors, il y en a deux qui sont accessibles en voiture, il y en a un qui est accessible qu'à pied, c'est le fameux cirque de Mafate, c'est mon préféré, je le connais par cœur parce que j'y ai fait beaucoup de randonnées pour Lonely Planet, il n'y a aucune route, aucune piste qui permette d'entrer là-dedans, il faut y aller à pied. Un cirque, c'est quoi finalement ? C'est une immense cuvette, un immense cratère de volcan qui est éteint et c'est tapissé de végétation. Il y a des trous, des ravines, des pitons. On est vraiment coupé de tout. Et la particularité, c'est que le cirque de Mafate, il est habité. C'est des tout petits hameaux qui sont accessibles qu'à pied. Ils sont connectés les uns aux autres par des sentiers de randonnée. Donc le but, c'est d'aller dans ce cirque et de faire des randonnées qui peuvent durer de 2 à 6 jours. Ça dépend un petit peu de l'itinéraire où vous faites. Vous faites un petit parcours modulable entre et vous dormez dans les gîtes le soir chez les créoles. Et là, vous découvrez vraiment la vie de ce cirque complètement coupé du monde.
Et c'est là qu'allaient subjuger les esclaves dont parlait Nathalie tout à l'heure.
C'est vraiment un monde à part, c'est ça qui est dingue.
Complètement à part.
Un monde à part, et moi ça restera une de mes meilleures expériences de randonnée dans ma vie de voyageur.
Et il faut imaginer que les villages qui s'y trouvent, les matériaux de construction pour construire les maisons et tout ça, ils ont été amenés là à dos d'homme, pendant des heures et des heures et des heures de marche.
Et vous savez, Philippe, c'est dans ces gîtes le soir, après une bonne journée de randonnée, qu'on déguste un bon et copieux rougail saucisse des familles. Ça vous remet bien d'équerre pour la marche du lendemain.
Pas le nord.
Vous savez que le cirque de Sélaos, un autre cirque, il y en a trois. Le deuxième, c'est le cirque de Sélaos. Vous savez que celui-là, il y a une seule route d'accès, une route asphaltée. Elle fait 37 km, 400 lacets. Je l'ai fait des dizaines de fois. C'est une route de rallye incroyable pour aller à Sélaos.
Côté fête, il y a de quoi faire aussi.
Alors, on a dit que La Réunion est un melting pot avec des influences culturelles très diverses. Ben, moi, j'ai été extrêmement impressionné par les cérémonies tamoules autour des temples tamouls. Oui, il y a des grands temples très colorés, comme en Inde. Timidi, ça vous dit quelque chose ? La fête de Timidi, c'est des marches sur le feu. Vous avez tous les fidèles d'origine tamoule qui marchent sur des braises incandescentes. Il faut le voir pour le croire, mais c'est vraiment ça. Vous avez une autre fête qui s'appelle Kavadi, comme en Asie. Là, c'est les pénitents. Ils processionnent dans les rues autour de Saint-André. Ils se percent la langue et les joues avec des aiguilles d'argent et ils sacrifient des boucs. Ils décapitent comme ça autour du temple. C'est assez particulier et c'est légal à La Réunion parce que c'est une exception culturelle qui est faite pour cette population-là. Ah ouais. Et vous avez une troisième fête également très colorée avec des processions. Ça s'appelle la fête de Divapali, également très connue en Asie. C'est la fête de la lumière. Vous avez plein de gens qui processionnent avec des bougies à la main. C'est un spectacle absolument incroyable. Voilà. Et en tant que visiteur, bien sûr, on peut assister à ces fêtes traditionnelles et c'est même le but d'ailleurs, c'est d'aller sur place pour se mêler à ces fêtes.
Le Kavadi, je vous le laisse.
Peut-être que vous transpercerez les fesses. Éventuellement, il faut essayer.
Bernard, pourquoi voulez-vous qu'Olivier se transperce les fesses?
Je sais pas, c'est une expérience comme une autre.
Il se lâche en ce moment,
c'est
ce
un piercing,
Bernard.
C'est la nouvelle mode de
on
piercing.
Apprend, on apprend ces trucs. À part la randonnée, il y a une petite activité supplémentaire qu'on peut faire.
Celle-là aussi, je la connais bien, c'est le parapente à Saint-Leu. C'est l'une des capitales mondiales du parapente. Saint-Leu, c'est sur la côte ouest, parce que vous avez tout simplement des conditions idéales pour le faire. 300 jours de l'année, un tandem avec un moniteur, et vous survolez le lagon pendant une vingtaine de minutes et vous atterrissez sur la plage de Saint-Leu. Expérience mémorable là également.
Super, merci beaucoup Jean-Bernard. Dans un tout petit instant après le flash de 17h sur Europe 1, nous partirons donc pour une des destinations les plus sympathiques d'Europe, pour les bonnes tables déjà, les estaminets, le pot de chevelèche, le Waterzooi, et puis surtout des petites villes qu'on adore comme Bruges, Knokke-le-Zoute, moi j'adore Knokke-le-Zoute, plus grande Bruxelles évidemment. Nous irons à Liège dans un instant sur Europe. Et si on partait, oui, deuxième heure, c'est toujours l'été, c'est donc toujours le moment de voyager sans limite, sans contrainte, juste pour le plaisir. C'est parti.
16h, 18h. Et si on partait ? Philippe Googler sur Europe 1.
Aujourd'hui, exceptionnellement, nous n'allons pas très loin. Nous allons dans un pays tout proche, mais où le plaisir est garanti. Et ce ne sont pas les longues plages du Nord, ni les jolies villes comme Bruges, la Venise du Nord, ou les magnifiques places flamandes d'Anvers. Ou encore les somptueuses forêts de Wallonie qui vous rendront le plus heureux là-bas. Non, dans ce pays, le vrai bonheur, c'est de fréquenter ses habitants. Je vous emmène aujourd'hui en Belgique. Et si j'aime tant les Belges, c'est que j'y ai vécu des rencontres savoureuses. Parce que les blagues belges, les plus drôles, c'est quand ce sont les Belges qui les font. Le plus bel exemple est cette rencontre que j'ai faite un jour dans les environs de Liège. C'était un vétérinaire poète. Son truc à lui, c'était d'exposer des squelettes de sirènes, c'est-à-dire les restes de ces êtres étranges, mi-femmes, mi-poissons. Alors évidemment, c'est pas facile à trouver. Et même après de longues recherches archéologiques, c'est assez compliqué de mettre la main sur un squelette de sirène. Donc, il les fabriquait lui-même. Il prenait des squelettes de poissons et il ajoutait des crânes de tout petits animaux, comme des petits rongeurs, et il habillait le tout. Donc grâce à un subtil agencement, il créait le squelette d'un animal chimérique qui ressemblait fort au reste d'une sirène, une sirène qui, évidemment, n'avait jamais existé. Donc, tout ça est très amusant, mais là où l'humour belge prend toute sa dimension, c'est que ce vétérinaire imaginatif s'était mis en tête d'exposer ses squelettes dans un grand musée belge, et ce, avec l'accord du musée. Il a donc créé une vitrine où étaient exposées différentes variantes de sirènes sous le titre très pompeux de « Vitrine des sirénidés ». Et alors, ce qui était très drôle finalement, c'était pas tant les sirènes elles-mêmes, c'était d'observer les visiteurs. Alors vous en aviez qui prenaient un air sérieux du style « Ah oui, des sirènes, oui. Ah oui, j'avais jamais vu des ossements de sirènes comme ça en vrai, mais je ne pensais pas que c'était aussi petit. » Et d'autres qui disent « Ah, des sirènes ? Ah, mais comment ça ? Ah bon ? Ah oui, donc ça a existé ? » Ou alors d'autres, plus rares, qui disaient « Oui,
Bon, bien vu la bonne blague.
Vous avez quelque chose sur les sirènes ?
Bien sûr, vous ne pouvez pas mieux tomber. Soyez le bienvenu dans mon repère de sirènes.
Eh bien franchement, je trouve tout ça très belge. Ce sens de l'humour, vous savez, relax, un brin enfantin, nature, un peu poète. Et j'imagine même le directeur du musée qui a dû accepter l'idée en rigolant, sans se poser plus de problèmes que ça, sans se demander même si ça se faisait ou pas de tromper les visiteurs. Juste un instant, juste pour le plaisir, juste pour l'humour.
Europe 1, 16h-18h. Et si on partait ? Philippe Googler.
Et encore plus de Belgique dans un instant.
Europe 1, 16h-18h. Et si on partait ? Philippe Googler.
Et si on partait sur Europe 1 cet après-midi, nous sommes dans un pays qui mérite toute notre attention parce que dès qu'on y a goûté, on l'adore. Alors je vois les yeux d'Olivier Pouls qui pétillent parce qu'il est belge.
Ah, il boit du petit lait là.
Il boit du petit lait, c'est sa journée aujourd'hui. Olivier Pouls qui est notre chroniqueur gastronomique. Jean-Bernard Carrier, on situe un petit peu la Belgique.
On va donner quelques petits traits géographiques tout simples. Hein. C'est vraiment frontalier de la France.
Hein.
C'est pas compliqué. Il y a 10 millions d'habitants. En gros, ça fait au niveau de la superficie, c'est à peu près 250 km du nord au sud. Donc c'est une grosse région, l'équivalent d'une grosse région française, si on veut. La Belgique est coupée en deux. Il y a deux régions, la Flandre au nord, la Wallonie au sud. Ça, on le sait.
C'est même encore plus complexe que ça. C'est parce qu'à la région de Bruxelles, il y a une toute petite partie.
Donc c'est un pays petit mais compliqué. C'est un plat pays, c'est vrai, c'est pas une légende, parce que le point culminant, c'est 694 mètres, hein, donc pas de quoi fouetter un chat.
Soyez respectueux.
Il y a une piste de ski, je voudrais quand même
dire. Oui, une piste de ski. Alors, il faut quand même dire une chose, c'est qu'il y a une façade littorale, une façade maritime, qui est plutôt intéressante, on va en parler également, c'est la mer du Nord, avec de très belles stations balnéaires.
D'ailleurs. Comme Knok le Zoutz.
Oui, alors c'est pas ma préférée, on verra, on fera une petite battle tous les deux,
bon,
Philippe.
Très bien. Alors, pour parler de la Belgique, nous sommes en ligne avec un Belge de sang et de cœur que vous connaissez tous, que vous retrouvez tous les samedis soirs sur France 2 dans Fort Boyard. C'est Olivier Mine. Bonjour Olivier.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Ça nous fait plaisir de vous avoir pour parler de la Belgique. Vous êtes né à Ixelles, c'est comme ça qu'on dit, c'est un quartier de Bruxelles. Hein.
C'est une des communes de Bruxelles, en effet.
Ouais.
Oui.
C'est
là où est né, entre autres, pour faire des références, Agnès Varda.
Ouais.
C'est là où est né aussi Christine Krent.
Ouais.
Et c'est là où est né très humblement votre serviteur.
Joli tableau, très réussi.
Et encore, j'ai résumé.
Alors, on parlait de l'humour belge il y a un petit instant. C'est vrai
qu'il y a aussi Audrey Hepburn, excusez-moi, j'ai oublié Audrey Hepburn également. C'est quand même pas mal. Hein. Encore une touche de glamour supplémentaire. Voilà.
je trouve que les Belges ont une façon de rire dans la vie en général et de rire d'eux-mêmes qui est assez extraordinaire. Olivier Pouls, il y a cette histoire là, ça s'est passé il y a quoi, 4-5 ans
ou 2006 je crois,
où à la télévision les Belges avaient carrément annoncé,
oui, dans l'édition de ce qui est l'équivalent là-bas du journal Le 20h qui a lieu à 19h de manière extrêmement sérieuse, comme si c'était la réalité, le présentateur vedette du journal a annoncé que la Belgique était scindée en deux, que la Flandre avait obtenu son indépendance, la Wallonie aussi, que le roi était en fuite, il y avait des reportages. Ouais. Et en fait, c'était un gag, c'était une blague. Et je peux vous dire que ça a été un truc démentiel. La grande majorité des Belges y ont cru.
Ouais.
C'était
juste pour l'humour.
Et c'était pour... Alors, c'était plus que de l'humour, c'était aussi pour montrer ce qui risquait réellement d'arriver si, entre guillemets, ils continuaient leur connerie.
Ouais. Et ça, imaginez qu'au journal de 20h en France, on annonce très sérieusement que la France, quitte la Bretagne. Enfin, un truc comme ça.
C'est inenvisageable.
Comment vous le voyez-vous, l'humour belge, Olivier Mine ?
Mais je pense en effet que Olivier, avec cet exemple-là, a résumé ce qu'était la Belgique, même si encore une fois, dans le cas présent, il y avait moins d'humour que de mise en abîme, en fait, de ce qui est une des réalités du pays, c'est-à-dire qui est toujours au bord de tout. Mais c'est vrai que vous avez raison, le Belge est quelqu'un qui... généralement, puisqu'il faut faire des généralités, a le rire généreux et a une grande capacité à se moquer d'abord de lui-même, ce qui d'ailleurs rapproche l'humour belge de l'humour anglo-saxon davantage que l'humour français, si on est très honnête.
Ouais.
Et je dis ça sans condamner l'humour français, mais disons que l'humour français est originellement plus basé sur les jeux de mots, sur ce qu'on appelle le bel esprit. Le Belge a du bel esprit lui aussi, mais qu'il met toujours en perspective par rapport à je me moque de moi d'abord, non pas pour prévenir toute moquerie venant des autres, mais simplement parce que je suis bien conscient des faiblesses qui peuvent être les miennes. Ouais.
Et alors comment est-ce que les Belges, parce que les Français se sont beaucoup moqués des Belges, ça s'est un peu calmé depuis quelques temps.
C'était Coluche, hein, les blagues belges à la grande époque.
Oui, et du coup, comment les Belges voient le français du coup?
Bah, très honnêtement, quand je vivais en Belgique, on était, alors que la Belgique a toujours eu une relation de sœur avec la France, on trouvait qu'en effet, cette grande vague qu'il y a eu de déconsidération du Belge comme étant une espèce de type neuneux.
Un cousin de province un peu sympa.
Voilà, oui. Pour ne pas dire Benet même. Hein, Benet. Mais donc on trouvait ça regrettable parce que c'est comme si on était, comme si on avait été mal aimé pendant tout un temps par une grande sœur dont on avait pourtant, dont on nourrissait pourtant plein d'affection. Mais heureusement, tout ça s'est calmé. On considérait en fait, finalement, au bout d'un moment, vous savez, c'est toujours le problème, c'est que dans ce cas-là, ça s'inverse. C'est-à-dire que les Belges se disaient, mais finalement, c'est sans doute par jalousie que les Français nous traitent ainsi. Et non pas parce qu'ils nous, pas parce qu'ils nous considèrent comme étant moins bien qu'eux.
Ouais. Mais alors, j'ai l'impression que c'est devenu plus chic d'être belge maintenant. Depuis ça, Benoît Poelvoorde, à peu près.
Moi, sincèrement, pour être arrivé en Belgique, en France, pardon, à Paris à la fin des années 80, j'ai trouvé en effet qu'il y a eu un changement qui s'est opéré à partir du moment où, alors peut-être que je résume un peu les choses, mais Benoît est arrivé à Paris avec son spectacle au Café de la Gare et où tout d'un coup, il a pu montrer que, ma foi, la Belgique en avait encore sous le pied et avait bien d'autres choses à proposer. Parce que sinon, c'est vrai que depuis les années 80, Paris, en tout cas, je ne parle pas de la France en général, mais de Paris plus particulièrement, avait plutôt le sentiment que la Belgique, c'était Brel, bien sûr, c'était les peintres comme René Magritte, évidemment, mais en cinéma, il n'y avait pas grand-chose qui se faisait à cette époque-là. Il y avait de la musique, bien sûr, avec Adamo aussi, et puis encore Annie Cordy, Morane, mais voilà, c'était restreint. Benoît a tout d'un coup amené un sang nouveau, et à sa suite sont arrivés d'autres Belges qui se sont fait connaître. Il y a eu bien sûr le début du grand règne des frères d'Ardenne. Ouais. Et tout d'un coup, en effet, il y a eu un vernis chic qui venait de Belgique et qui s'est posé comme ça sur les artistes. Je ne sais pas ce qu'en pensent vos camarades autour de la table, mais moi, en tout cas, je le situe plutôt au début des années 90.
Ouais. Oui, je suis tout à fait d'accord. Moi, quand je suis arrivé à la même époque en France, on n'était pas forcément fiers d'être belge. On nouait une espèce de petit complexe d'infériorité. On essayait de cacher l'accent. Mais à un moment, on était toujours rattrapé. Il y avait toujours un petit truc. Ah, t'es belge.
Ou
des expressions, on va en parler dans un instant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est plutôt fiers d'être belge. Ouais. Quand on voit ce qu'un certain nombre de Belges réussissent et comment la Belgique, finalement, ce pays totalement improbable, toujours dans une espèce de système politique délirant, arrive quand même à produire. Mmh. On vit bien en Belgique. Et puis aujourd'hui, c'est les Français qui font la queue à la frontière pour aller habiter en Belgique et plus l'inverse. Hein,
oui. Signale quand même. Pas juste parce qu'ils aiment la Belgique. Hein. Il y a des bonnes raisons
du côté de l'hôtel des impôts.
Oui, oui, oui. On reste tous ensemble, on se retrouve dans un instant. On parlera un peu de ces fameux accents belges et des expressions belges. À tout de suite sur Europe 1.
16h, 18h. Et si on partait ? Philippe Googler sur Europe 1.
C'était au temps où Bruxelles rêvait. C'était au temps du cinéma muet.
Nous sommes en Belgique jusqu'à 18h sur Europe 1 avec nous Olivier Mine, un vrai Belge pur sang. Et puis Olivier Pouls également.
Enfin, pur sang. Oui. Oui. On en reparlera peut-être, mais vous savez, je ne sais pas s'il y a des Belges pur sang, en fait. Je pense qu'on est tous des Zineke. Mais bon,
qu'est-ce
on en reparlera.
Qu'est-ce que c'est un
Zineke? Ah ben voilà.
C'est quoi un Zineke?
Un Zineke, c'est un bâtard, c'est quelqu'un qui... ça peut être un être humain ou un animal d'ailleurs, qui est mélangé. Voilà, on est le fruit de beaucoup de mélanges, voilà, c'est ça.
Et c'est une insulte?
Non, c'est une
insulte. Ah, pas du tout.
Tu n'es qu'un Zineke, c'est un mélange.
Vous dites bâtard, alors.
Oui, mais bâtard gentil.
C'est
bâtard classe. Bâtard élégant.
C'est bâtard dans le sens génétique du terme, je voulais dire.
Voilà. Alors, il y a des tas de mots et d'expressions belges comme ça qui sont savoureuses.
Ah, le parler belge, c'est quand même un truc assez incroyable. On va voir, Olivier, si vous avez gardé votre dictionnaire franco-belge. J'en ai mis quelques-unes de côté. Alors, si je dis, Etich, t'es un sacré dickeneck. T'as pas toutes tes frites dans le même sachet. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire Eh ben, mec, t'es un fameux vantard, mais t'es pas très malin quand même.
C'est ça. Alors, une autre petite que j'aime bien, c'est « Après la drache, j'ai les cheveux qui crôlent ».
Après la drache, après
oui,
la pluie.
Après une grosse pluie, ouais, j'ai les cheveux qui bouclent. Ouais,
qui crôlent.
Enfin, qui frisent,
qui
bouclent.
Ouais, qui crôlent.
Qui crôlent. Ah, non, qui crôlent. Tu le sais... haut est ouvert. Ouais, et puis,
tu sais venir tantôt.
Ah bah est-ce que tu viendras est-ce que tu viendras bientôt?
Oui, parce qu'on a une enfin l'utilisation du verbe savoir, ouais, et pouvoir est un peu confondu en, ouais, Belgique. On, oui, on utilise souvent savoir pour pouvoir. Est-ce qu'on dit pas tu peux venir, on dit tu sais venir.
Ah oui, tu saurais, ouais, venir.
Ou tu saurais venir.
Ah, ouais. Ouais. Fais-nous l'accent belge parce qu'on adore.
Alors, il n'y a pas d'accent belge. Il y a des, voilà, accents, ah, belges. Oui. Ce que les Français prennent souvent pour l'accent belge, c'est l'accent bruxellois. L'accent brisselois, c'est un accent un peu comme ça, qui a un peu disparu parce que le quartier des Marolles, qui était le cœur de Bruxelles, est un quartier qui aujourd'hui a presque disparu, il n'y en a plus beaucoup. Et ça, c'est un l'accent tel que vous le voyez. Mais il y a l'accent de Liège, pardon, l'accent Liège. Ah, Liège, on parle comme ça. On s'y fait qu'on régie, j'en suis à Liège. C'est très différent.
Et ah, l'accent, je
les Liégeois qui ont leurs propres expressions, d'ailleurs.
Exactement.
Par exemple,
Liège. Oui, oui.
Par exemple,
par exemple, moi je me rappelle quand j'ai fait une partie de mes études à Liège, et un jour il y a une de mes petites camarades de l'amphithéâtre qui me dit oh, il faut que j'aille m'acheter. Je suis morte fatiguée, il faut que j'aille m'acheter une biche. Et
qu'est-ce que c'est
que cette histoire? Eh bien, elle me disait simplement donc, bon, elle est morte fatiguée, on avait bien compris ce que ça voulait dire. Elle m'a acheté une biche, elle m'a acheté du pain.
Ah oui, c'est ça. Alors, la boulangerie, c'est très intéressant parce qu'en Belgique, longtemps, la baguette, on appelait ça le pain français. Quand vous aviez un Belge qui allait dans une boulangerie française, c'était impossible de comprendre ce qu'il demandait. Parce qu'il demandait un pain français, on dit mais tous les pains sont français. Au lieu de demander un pain au chocolat ou une chocolatine, il disait est-ce que je peux avoir une couque au chocolat, qui est l'expression, voilà, ou une couque au beurre. Et c'était très très compliqué de se faire comprendre. Et autre expression.
Si vous demandiez un cougnou, là vous étiez mort. Parce qu'un cougnou, là, c'est une
brioche en forme de petit bonhomme qui se vend en général à Saint-Nicolas.
Et Olivier Mine, moi j'adore vous entendre avec l'accent belge parce qu'on n'a pas l'habitude. Vous pouvez nous en refaire un petit coup?
Mais comme Olivier le disait, c'est vrai qu'il y a l'accent bruxellois qui est très mouillé. Ouais. Les R sont très mouillés. C'est Dickette, et c'est tu viens, tu saurais venir une fois parce que. Ah, mais viens pas avec tes slash, hein, parce que ici c'est un peu, comment dire, bien fait sans personne, quoi. Ça c'est Bruxelles. Il y a Liège, comme l'a dit très justement Olivier, qui est plus lent. À Liège, on parle un peu plus en prenant son temps. Et puis, Namur, qui est encore plus lent. Namur, on a pour habitude de dire que ce sont des Suisses qui étaient trop fatigués pour aller jusqu'à Bruxelles et qui se sont arrêtés à mi-chemin.
Oh, ils sont habillés pour l'hiver.
Mais même dans Bruxelles, il y a des accents, parce qu'il y a l'accent uclois, par exemple.
Ah oui?
Oui. J'espère que je sais que l'uclois, c'est ça.
Oui, parler un peu comme si j'avais une petite crampe à la mâchoire, tu vois. Oui. Alors c'est comme si la mâchoire était vers l'avant. Oui, c'est vrai.
Ah, dis donc, quand je vous disais que vous passez des bons moments en Belgique, voilà, ça y est, on y est. C'est vraiment un pays formidable pour ça. Pourquoi on se sent bien tout de suite en Belgique, Olivier, d'après vous? Et notamment à Bruxelles?
Vous parlez de au pouls ou au mime?
C'est vrai que j'ai le même prénom, pardon. Je parlais aux mines.
Ah, pardon. Mais écoutez, moi, je sais pas ce que vous en pensez, parce que j'imagine que vous toutes et tous, vous êtes allés déjà une fois à, ouais, Bruxelles ou en Belgique. Ouais. Moi, j'ai l'impression tout simplement que c'est parce qu'on y est tout de suite accueilli, ouais, les bras ouverts.
Ouais,
le Belge est quelqu'un qui, en tout cas, au départ, ne juge pas. Il est accueillant. Et qui que l'on soit, d'où que l'on vienne, on est tout simplement le bienvenu. C'est un pays qui est un pays de carrefour, de culture. On a été envahi tellement souvent que je pense que même si, évidemment, ça fait bien longtemps que tout ça n'existe plus, je crois que ça a dû être imprimé quelque part de cette espèce de cerveau reptilien. Et il y a quelque chose chez le Belge qui est d'abord universaliste. Le Belge aime voyager. Le Belge, en tout cas, et s'il ne voyage pas physiquement, il aime voyager par la pensée. Et de plus, il aime accueillir. Voilà, je crois que c'est vraiment, enfin pour moi, une des définitions du Belge.
Et puis le sens de la fête aussi. Le sens de la fête, il me semble.
Évidemment. Ouais. Mais moi quand, savez, quand il pleut 365 jours sur 367, on n'a qu'une chose à faire, c'est de faire la guindaille.
Une bonne guindaille. Mais moi, quand j'entre en Belgique, souvent, et que je vais dans un restaurant, dans un bar, tellement plus habitué à la gentillesse en fait, des gens que je me demande s'ils ne se foutent pas de ma gueule. Tellement habitué à l'amabilité parisienne que je me dis, mais qu'ils se foutent de moi ouais. Mais non, ils sont comme ça. Ils sont vraiment gentils.
Olivier Mine, vous restez avec nous. On continue à explorer la Belgique joyeusement dans un petit instant après avoir écouté, et oui, Dick Annegarn, Bruxelles sur Europe 1. Chanson des années 70.
Europe 1, Philippe Googler.
Nous sommes en Belgique jusqu'à 18h sur Europe 1. En ligne avec nous, Olivier Mine, qui nous parle de son pays. Je rappelle qu'il est né à Ixelles.
Ixelles.
J'ai du mal avec vos X. Des fois c'est S.
Bruxelles, mais Ixelles.
Voilà, ça n'a aucun sens en vrai.
C'est belge.
Ah non, c'est belge, oui, c'est ça.
Alors, Nathalie Hélal, oui, vous êtes aussi avec nous pour nous raconter des histoires belges.
Oui,
aujourd'hui.
Et j'ai la pression parce que je suis sous contrôle des deux Olivier qui n'ont pas encore fusionné, hein, ouais. Je précise. Alors, pour commencer, vous allez voir que chez nos voisins et amis belges, on ne plaisante pas du tout avec les frites.
Ah non.
Il s'est passé une chose incroyable à Gand en 2016. Figurez-vous que des dizaines de propriétaires de baraques à frites ont occupé les environs de l'hôtel de ville afin de contester un changement de réglementation prévu par la municipalité. C'est-à-dire qu'en fait, la municipalité avait prévu 16 emplacements seulement de baraques à frites avec un système d'enchères pour que le plus offrant choisisse son endroit préféré.
Donc, ça 16, c'est déjà pas mal.
Bah oui, mais ça n'aura pas plu du tout. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait pour se faire remarquer ? Ils ont troqué les habituelles pancartes et banderoles contre des sachets de frites surgelées. Et puis, ils ont bombardé de frites toujours surgelées le siège de l'autorité municipale. C'est-à-dire plus de 2 tonnes de tubercules crus qui ont été jetées sur les marches de l'édifice.
Très bien. Bon, Olivier Mine, quel est votre rapport à la frite aujourd'hui
J'adore la question. Philippe,
hyper
j'adore.
Sérieux en plus.
Philippe, vous savez, vous êtes totalement digne d'être belge en fait. Avec des questions pareilles. Écoutez, j'ai une relation très particulière avec la frite, évidemment. Je ne peux que regretter d'abord que nos amis anglo-saxons disent French fries pour dénommer la frite, car il faudrait dire Belgian fries. Mais c'est vrai que la frite, c'est quelque chose de particulier parce qu'elle est remarquable chez nous dans la mesure où elle n'a pas le goût d'ailleurs. Elle est vraiment typique.
Ah bon,
à un point tel d'ailleurs que la frite se mange seule. On n'a pas besoin de l'accommoder avec une petite sauce, certes, mais on est bien d'accord, on peut très bien manger son cornet de frites. Et alors évidemment, il y a toujours l'option de la fricadelle à côté, hein, parce que sinon, parfois, on a l'impression d'être tout seul. Mais il n'empêche que ce cornet de frites peut se suffire à lui-même, parce que le goût de la binge est un goût qui est très particulier et qui, même frit, fait que, eh bien, cette patate frite n'a pas le goût simplement d'une friture banale. Moi, je suis très vigilant là-dessus. On en avait déjà parlé avec Olivier. Sur les deux cuissons, bien sûr, sur la qualité de l'huile, le blanc de bœuf,
oui.
Parce que les huiles végétales sont moins recommandées pour avoir le goût de la Belgique. Et puis sinon, pour le reste, j'en mange pas non plus tous les jours, bien sûr. Parce que la frite, c'est comme le reste. C'est parce qu'elle est rare qu'elle se déguste avec délicatesse, voyez-vous.
Alors, merci beaucoup, Olivier. Alors, Nathalie, une autre histoire belge, une histoire de Miss, je crois.
Oui,
fois.
Absolument, parce que les Belges ont une passion, et on les comprend, en plus des frites, hein, pour les crevettes grises. Alors, on trouve là-bas des croquettes aux crevettes grises, des œufs brouillés à la crevette, des canapés, même de la mayonnaise à la crevette grise. Et ils les aiment tellement, figurez-vous, qu'en 1950, le syndicat d'initiative d'une ville qui s'appelle Oost-Duinkerke, j'espère que je prononce bien,
Oost-Duinkerke,
a fusionné par la suite avec la commune de Coxide, hein, c'est en Flandre occidentale, a lancé...
Et c'est Oost-Duinkerke. C'est Oost-Duinkerke.
Oost-Duinkerke a lancé la fête à la crevette et surtout, l'élection de Mieke Garnaal, c'est-à-dire la môme crevette.
C'est Gernaal.
Je prendrai des cours de langue avec vous.
N'essayez pas, Nathalie. On n'y arrivera pas. C'est impossible.
Mais alors, ma miss crevette, enfin plutôt ma môme crevette, c'est un titre que se disputent de très nombreuses pêcheuses costumées et le privilège pour l'heureuse élue, c'est enfilée sur le dos d'une crevette géante de quelques 10 mètres de long au cœur d'un cortège d'environ 1000 participants sous les yeux d'une foule en délire. Je trouve ça assez improbable pour une Miss.
C'est pas mal. C'est belge.
C'est très belge.
Le mot gangster est un mot belge selon vous
aussi ? Oui. Alors, à l'époque de la ruée vers l'or, les politiciens bruxellois avaient de beaux projets pour moderniser un quartier dont on a légèrement parlé, qui est le quartier des Marolles, qui était à l'époque très populaire, très pauvre. Aujourd'hui, ce n'est plus tellement le cas, c'est assez branché. Alors, c'était un quartier à l'époque composé de nombreuses impasses sombres, larges d'à peine 2 mètres, et puis qui s'étendaient un petit peu comme des couloirs sur 300, 400 mètres de long. Donc, ils ont tout rasé, mais après, il fallait bien recaser les gens qu'on avait délogé. Alors, qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme solution ? Les faire embarquer sur le prochain navire pour les Amériques. Et c'est ainsi que beaucoup de Bruxellois de Marolles se sont retrouvés exilés de force sur le nouveau continent. Beaucoup ont d'ailleurs atterri à Chicago. Et comme ils ne possédaient rien, ils étaient regardés d'un mauvais œil, considérés comme des voleurs. Donc, rapidement, on les a surnommés les hommes provenant des gangs. Littéralement, ça veut dire couloir en néerlandais, ces fameuses impasses interminables. Donc, ce sont les gangsters.
Ah, dis donc, on apprend de ces trucs.
Eh ben, j'apprends des choses.
Ah oui, là.
Aussi, là.
Incroyable.
J'ai scotché deux Belges.
Ouais, pas mal. Bien joué, bien joué, bien joué.
Après, il faut le prononcer gangster. Hein.
C'est-à-dire
il faut le prononcer.
Gangster
comment on dirait
l'accent belge.
Avec l'accent belge.
Un gangster.
Ah oui, voilà, un c'est gangster.
Olivier Mine, il y a un truc qui m'épate chez les Belges, c'est qu'on oublie souvent que c'est un royaume. Quelle est la relation au roi chez les Belges ?
La relation roi, elle est fluctuante. Elle a toujours été, mais c'est bien logique, puisque c'est le symbole de la nation. Et quand la nation a des difficultés avec elle-même, elle s'en prend à son premier symbole, qui est donc, dans ce cas-là, celui du roi. Mais je pense malgré tout que s'il y a encore, malgré toutes les dissensions qui peuvent exister entre les communautés linguistiques, s'il y a encore quelque chose qui scelle, malgré tout, l'identité du pays, c'est la personnalité du roi et son rôle symbolique au sein du pays. Maintenant, voilà, je pense que le roi Philippe II est quelqu'un... c'est Philippe II ou pas, madame ?
Oui, Philippe II. Ah, on a perdu Olivier.
Ah oui, brutalement.
On l'a guillotiné. Oui,
c'est Philippe II. Hein. C'est Philippe II.
On vous avait perdu, Olivier. On va reprendre sur Philippe II.
Vous m'avez entendu ?
Oui, absolument.
Ah pardon, excusez-moi.
Et donc vous voulez nous dire
sur
Philippe II ?
Je disais simplement que donc la personnalité du roi, enfin le roi actuel est un roi qui s'en sort plutôt pas trop mal. Non mais je voulais dire, voilà, le roi s'en sort pas trop mal aujourd'hui dans ce qu'il a incarné. Je sais pas ce qu'en pense Olivier, mais j'ai l'impression que bon an, mal an...
Je suis assez d'accord avec lui. Je pense que c'est un des derniers ciments qui reste pour vraiment fédérer cette Belgique qu'on sait ou qu'on a pu penser prête à exploser. Je rappelle qu'il n'y a toujours pas de gouvernement à l'heure actuelle en Belgique.
Et ça fait
des semaines
et
des mois que ça dure et on va probablement devoir revoter. On rentre dans des systèmes politique complètement aberrant. Il faut savoir qu'il y a un nombre d'États, c'est un État fédéral maintenant, donc il y a un gouvernement national, il y a des gouvernements pour chacune des fédérations, plus des gouvernements pour les Wallons, pour les Flamands, enfin bref, tout ça est un imbroglio qui fait que pour, je crois qu'il y a 5 ou 6 ministres de la Santé, enfin c'est complètement délirant, c'est à la Belge, mais le roi est un peu le ciment et le garant de cette unité nationale qui reste, et contrairement au roi d'Espagne, le nôtre, il est toujours bien là, il est toujours en place, hein,
il
n'est
pas
parti. Il
n'est pas à Dubaï
hein.
Merci beaucoup à Olivier Mine de nous avoir consacré du temps pour nous parler de la Belgique. C'était super.
Je vous en prie, c'était un grand bonheur d'être avec vous. On a oublié une petite chose parce que l'une des chansons que vous avez passées est très symptomatique aussi de ce qu'est la Belgique et de ce que sont les Belges. C'est que n'oublions pas que malgré la part surréaliste, la part de joie, de fête et tout ça, il y a aussi en Belgique et chez le Belge, il y a aussi une mélancolie, une nostalgie. Il y a quelque chose qui coule en dessous de ce qui apparaît comme étant joyeux et qui est consubstantiel à l'identité du Belge.
Ah, c'est côté Brel,
c'est pas
côté
que le Belge
Jacques Brel,
pleure, ça. Mais c'est oui, il y a le côté il pleut aussi à l'intérieur du Belge, même si encore une fois, ce qu'il propose à l'extérieur est solaire et joyeux. Voilà, c'est aussi ça la Belgique.
Merci beaucoup Olivier, je trouve que vous parlez très joliment de ce pays. Je rappelle qu'on vous retrouve tous les samedis soirs sur France 2 dans Fort Boyard, mais aussi en librairie, puisque vous avez fait paraître votre premier roman, bravo, qui s'appelle Un château pour Hollywood, disponible aux éditions Séguier. Au revoir Olivier, merci.
Merci Philippe,
et
merci à vous
tire ton
tous.
Plan avec ça, fieu.
À suivre sur Europe 1, la cuisine belge avec Olivier Pouls et toute la bande de voyageurs. À tout de suite.
16h, 18h. Et si on partait ? Philippe Googler sur Europe 1.
Quand la Wallonie sera en cendres, tous les Wallons seront sans abri. Ils iront donc tous vivre en Flandre. Je suis sûr qu'ils seront bien accueillis. Les Wallons sont flexibles, c'est vrai.
C'est quelque chose, ça. C'est Laura Lone.
Oui, c'est l'humour belge.
Olivier, la cuisine belge. Alors, on a abordé la frite déjà largement.
Mais on va en reparler peut-être, parce que vous savez qu'en matière de frites, il y a quand même un grand débat. Ah. Est-elle belge ou est-elle française ? Ah. On pourra en parler toute l'après-midi.
On ne va pas se risquer à vous répondre.
Mais je vais quand même essayer.
Comme ça, hein,
mais je vais quand
bête.
Même essayer de vous donner quelques pistes. Ouais. Et en toute objectivité. Alors, il y a deux histoires en fait qui se font face. On parle de la première, qui est une légende belge, une histoire belge, qui mettrait l'invention de la frite à la fin du XVIIe siècle dans la région de Namur, où la population avait l'habitude là-bas de pêcher dans des petites rivières des petits poissons et de les faire frire. Ah. Et suite à un hiver particulièrement rigoureux, les rivières étaient gelées, on ne pouvait pas prendre de poissons. Et donc, on aurait remplacé les poissons par des petits bâtonnets de pommes de terre qui avaient à peu près la même taille, qu'on aurait fait frire aussi. Et ça... là serait née la frite. C'est
ça
la version
paraît mignon, mais pas
défendue.
Très... trop simple pour être vrai.
Alors, le problème, c'est qu'elle se heurte à une contradiction historique. C'est que la pomme de terre, à cette époque-là, n'avait pas encore été introduite en Belgique. Il faudra attendre 1739. Ah. Et donc, malheureusement, cette version ne tient pas. Et la version, en réalité, la plus crédible, et je suis bien obligé de le reconnaître, c'est que la frite serait française. Ah. Elle serait apparue au lendemain de la Révolution, sur le Pont-Neuf, à Paris. On garde d'ailleurs toujours une préparation très proche de la frite qui s'appelle la pomme Pont-Neuf. Et il y avait des petits marchands ambulants qui vendaient des morceaux de pommes de terre qui étaient frits et qui ont rencontré un certain succès. Et ensuite, un certain nombre de ces marchands ambulants ont pris la route et sont partis vers le nord. Et certains se seraient sédentarisés en Belgique, notamment dans des forains, et se seraient fait des spécialités de vendre sur place ces petits bâtonnets. Et donc, la frite née en réalité en France sur le Pont-Neuf serait ensuite montée vers le nord, et c'est en Belgique qu'elle aurait connu, dans le nord en tout cas, un engouement beaucoup plus fort. Bon, il faut savoir qu'au XVIIIe siècle, la Belgique n'existe pas encore. Mais encore, Belgique a appartenu notamment aux Espagnols pendant très longtemps.
Belle histoire, belle histoire. Bon, en même temps, vous devez beaucoup à la France, une fois encore.
Oui, évidemment. Alors, bon, on ne va pas résumer quand même uniquement la gastronomie belge à la frite, ce serait un peu dommage, même si c'est un emblème national. C'est vrai que quand on va en Belgique, on mange bien. Il faut bien le reconnaître. On mange très bien, où qu'on aille, à des prix tout à fait acceptables. Une cuisine assez bourgeoise. Il y a eu une gastronomie belge qui est peut-être un petit peu moins présente aujourd'hui. Mais en tout cas, on trouve encore énormément de plats assez typiques. Bon, je vous donnerais bien volontiers ce qui serait pour moi le repas idéal, celui en tout cas que moi j'aime et que j'adorais. Alors moi, en entrée, je prends des croquettes de crevettes.
Des croquettes de crevettes,
délicieux ça.
L'incontournable,
comment,
si vous allez en Belgique, vous devez goûter ça. Alors, c'est les crevettes grises de la mer du Nord.
Ah oui,
c'est une grande spécialité belge. Ouais. Et alors, c'est une espèce de béchamel lié avec une bisque de crevettes. On met des crevettes dedans et on panne le tout. Et ensuite, on le frit. Ce qui fait que cette croquette, ben, vous avez tout autour une croûte qui est frite. Et quand vous la cassez, ben, l'intérieur est plutôt moelleux, devient un peu coulant comme ça.
Ça fait beaucoup de graisse, beaucoup de friture quand même,
mais
tout ça.
J'ai un problème avec le gras. Mais non. Le gras, c'est la vie.
Du pané frit, puis des frites.
Ben, c'est pas grave. On se fait plaisir. Et si vous voulez un peu plus léger, en ce moment, vous avez les tomates crevettes. Alors là, on est en pleine saison de la tomate, c'est une tomate évidée. Et on fait une petite préparation à base de crevettes grises, là encore, qu'on mélange avec un peu de mayonnaise. Vous me dites encore du gras, bah oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Un petit peu de persil, et on remplit la tomate avec cette préparation de crevettes grises.
C'est
vraiment
bon,
délicieux. Alors, en plat, bon, on pourrait parler du Waterzooi, on en a parlé il n'y a pas très longtemps quand on s'est arrêté dans le nord de la France. Moi, il y a une salade que j'aime bien, qui est une salade typiquement belge, salade liégeoise, pommes de terre, haricots verts, lardons, vinaigrette.
Ah, ça a l'air
servi
bien, ça.
Tiède. Oui, il n'y a pas que de la frite. Hein.
Ouais, ouais.
Et ça, c'est plutôt, on mange ça maintenant, c'est plutôt estival et printanier. Et puis alors le dessert incontournable, tarte au sucre ou mousse au spéculoos, au choix.
Ouais, tarte, au sucre.
C'est une tarte avec, faite avec une petite préparation, ce qu'on appelle un appareil, sucre et œufs. Et ça va caraméliser comme ça au-dessus de la pâte. C'est absolument délicieux.
Je crois qu'en Franche-Comté, on appelle ça le gâteau de ménage. Ouais, c'est la même recette.
Ça doit y ressembler. Ouais. On a de la tarte au riz aussi, par exemple, en Belgique.
Et les gaufres à 4 heures.
Les gaufres, alors, de Bruxelles ou de Liège. Moi, j'ai une petite préférence pour les gaufres de Liège qui sont un peu plus caramélisés.
Prononcez Liège avec l'accent liégeois.
Liège. Et alors ça, c'est une gaufre qui est un peu plus caramélisée avec des morceaux de sucre qui croquent encore dedans.
La laquement, non ?
Exactement,
c'est ça.
Oui.
Qu'est-ce que c'est la laquement ?
C'est la gaufre liégeoise, justement, caramélisée, qui a été inventée par la famille laquement, d'où son nom.
D'accord.
Et c'est une institution.
Eh oui, on en trouve un peu partout.
Et la bière ?
La bière, impossible de ne pas mentionner la bière, puisque la bière est un peu au belge ce que le vin est au français, il faut bien le reconnaître. Alors ça date du Moyen-Âge, dans les abbayes où les moines ont commencé à brasser. Et en réalité, à l'origine, c'est pas tellement qu'ils aimaient ça, évidemment ils ont appris à l'aimer, mais c'est surtout qu'il y avait un problème d'eau potable, que l'eau n'était pas consommable. Et donc pour éviter d'attraper des maladies, il valait mieux boire de la bière.
Ah, oui.
Eh oui, en faisant fermenter, la fermentation tue les bactéries et rend ce breuvage finalement extrêmement mieux, en tout cas plus recommandable que boire de l'eau potentiellement croupie qui peut vous attirer quelques ennuis.
Donc il y avait une bonne excuse pour boire de la bière.
Exactement. Et vous savez que la bière d'abbaye aujourd'hui est classée au patrimoine de Belgique, est classée au patrimoine immatériel de l'UNESCO depuis 2016. Il reste encore quelques abbayes qui produisent de la bière, comme Maretsu, Affligen ou Floref. Mais il y a mieux encore, c'est la bière trappiste, c'est-à-dire la bière qui est brassée par les moines. Je vais très vite, il en reste 10 dans le monde et 6 en Belgique.
Ah ouais. Bon, quel voyage, hein ! On a envie d'aller en Belgique maintenant.
C'est parti.
On se retrouve dans un tout petit instant avec les bons tuyaux de Jean-Bernard Carrier pour y aller.
16h, 18h. Et si on partait ? Philippe Googler.
Nous sommes en Belgique jusqu'à 18h sur Europe 1. Et, mesdames, messieurs, un communiqué d'Olivier Pouls. Du Palais Royal. Presque un crime de lèse-majesté.
Oui, c'est bien le roi Philippe, mais Philippe Ier, il n'y en a pas eu deux, on n'en est qu'au 1. Et merci à Philippe, justement, qui nous fait remarquer à juste titre cela sur Twitter. Nous présentons toutes nos excuses, ouais. Olivier Mine et moi-même, à la famille royale.
À genoux.
Très bien sûr.
La sanction peut être sévère. Hein.
Ah oui, excommunié.
Jean-Bernard Carrier du guide Lonely Planet, parlez-nous de la Belgique à votre façon.
Et vous savez, quand j'étais jeune, j'habitais en Lorraine, tout le monde le sait. La Lorraine est frontalière de la Belgique, du sud à la Wallonie.
Donc et vous avez souvent franchi la frontière.
Eh bien oui, j'allais faire un tour dans la vallée de la Semois. C'était un peu notre escapade quand on était jeune là-bas, dans cette Lorraine. On allait, la Semois, c'est un affluent de la Meuse. C'est une rivière qui littéralement se tortille en faisant plein de méandres. C'est très sauvage à travers les forêts de l'Ardenne. Avec ces fameux paysages que vous aimez bien, Philippe, tout en rondeur, en douceur, avec cette rivière qui coule de manière nonchalante au milieu de ces forêts d'un vert profond. Pas de grande ville, juste des petits bourgs attachants. Ça, c'était notre lieu d'excursion.
Et des falaises magnifiques, parfois.
Et des falaises magnifiques, avec des points de vue de fou.
Quels sont les sites à ne pas manquer dans cette vallée ?
Pas très loin, à quelques kilomètres de la vallée à Semois, il y a la fameuse abbaye d'Orval. Donc, on allait tous aussi faire nos emplettes. Je sais, Olivier, que vous n'aimez pas trop les bières trappistes. La fameuse abbaye d'Orval, avec la bière d'Orval.
Contre, pas du tout.
Alors, c'est une très belle abbaye. Il y a des moines qui sont depuis le 12e siècle. Il y en a toujours une quinzaine qui sont sur place. Mais bon, je vous avoue qu'on allait plutôt là pour faire remplir notre caisse de bière d'Orval plutôt que pour aller visiter l'architecture de cette abbaye. Un petit peu plus haut, quand on remonte la vallée de Semois, on arrive à Bouillon.
Ah oui, Bouillon.
C'est vraiment un beau lieu touristique, c'est magnifique.
C'est beau, Bouillon.
C'est une ville qui surgit vraiment comme une apparition au détour d'une boucle de cette rivière Semois. Il y a un super château fort sur la crête, un château qui a plus de 1000 ans, qui domine toute la vallée. Voilà, à ne pas manquer.
Et puis, vous avez réussi à nous placer un petit coup de kayak et de canoë.
Alors, on peut faire du canoë sur la fameuse rivière Semois, comme ça, on est au ras des flots. Voilà, on peut aussi faire de la randonnée dans les forêts alentours. Elles sont très, très giboyeuses. On y voit des sangliers à coup sûr.
Très bien. Et alors, ça, c'était pour le côté plutôt est de la Belgique.
Sud, on va dire. Ouais, plutôt sud.
Sud-est.
Ouais, sud-est.
Si on veut profiter de la mer à l'ouest.
Là, on monte plein nord. On va directement sur la mer du Nord. Vous savez qu'il y a de très, très... Moi, j'ai été surpris. Il y a de très, très belles plages en mer du Nord.
Ouais,
c'était pas franchement
l'idée
que j'en avais.
Plage de sable fin, magnifique.
Exactement. C'est 66
km. Bon, faut y aller avec un petit pull, hein, quand même.
Alors, c'est 66 km de littoral. Alors, moi, celle que je préfère, on va peut-être en débattre un peu, c'est De Haan, le Coq, à 15 km à l'est d'Ostende, parce que c'est l'une des plus élégantes élégantes et des plus discrètes. Ici, il n'y a pas d'immeubles qui viennent dénaturer ce front de mer. Mmh. Il est vraiment resté magnifique. C'est une station balnéaire à taille humaine, avec des jolies villas, des façades rétro, un petit peu comme à Deauville, sur un style un petit peu anglo-normand. Assez chic, mais ouais, plus familial que Knokke-le-Zoute, justement. Chic, mais abordable, avec beaucoup de cachet. C'est vraiment un point de chute génial pour ceux qui veulent se frotter à cette belle côte belge. Voilà.
Tout à fait. Et on peut faire ce qu'on appelle du quistax, tout le long de la côte belge. Et là, ce sont des grandes voitures à pédales pour adultes. Ah, on peut louer, et comme il y a une digue qui pratiquement fait toute la longueur de la côte belge, et vous pouvez faire des kilomètres comme ça en pédalant sur votre quistax.
Le long de la côte.
Très bien. Moi j'aime bien Knokke-le-Zoute, rien pour le nom.
Plus chic, très chic.
Le Saint-Tropez.
Ouais, c'est Saint-Tropez.
C'est le Saint-Tropez.
Voilà.
Qu'est-ce qu'il est chic, c'est
plus, de Han, c'est plus le Deauville. Voilà, c'est un petit peu un esprit un peu différent.
Vous connaissez d'autres sites spectaculaires en Belgique?
Eh ben, on va retourner dans un site assez particulier à Liège. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'urbex, mes amis? L'urbex, c'est l'exploration urbaine. C'est une activité qui consiste à visiter des lieux construits et abandonnés par l'homme. Alors c'est plus ou moins officiel, plus ou moins clandestin. Et dans la banlieue de Liège, au bord de la Meuse, se trouve l'un des plus grands sites d'urbex d'Europe après Tchernobyl.
Comment ça?
Et vous savez ce que c'est?
Non.
Ben, c'est un ancien haut fourneau, le haut fourneau B et ses annexes. Le monstre de métal qui fait 100 mètres de haut. Il est à l'abandon depuis 2013, suite à la crise sidérurgique. C'est un gigantesque enchevêtrement de tubulures rouillées, de bandes transporteuses, avec la végétation qui a repris ses droits un petit peu, qui repousse là-dessus. C'est un site sidérurgique qui est à l'arrêt depuis plusieurs années. Il est en transition, en entre-deux. Et il y a des urbexeurs de toute l'Europe qui viennent sur ce site. Alors évidemment, ce n'est pas très légal.
Quel intérêt, en fait?
Ben, il y a une ambiance. On y va pour l'ambiance, Nathalie. C'est une ambiance de dingue. Le site est complètement figé. Il n'est pas préservé. Il n'est pas démoli. Vous êtes dans un entre-deux industriel, un entre-deux patrimonial,
c'est
finalement.
Fascinant.
Et on ne sait pas très... C'est fascinant, exactement, de se balader là-dedans. C'est fascinant. Alors, si vous voulez rester dans la légalité, vous allez juste à l'extérieur. Vous verrez, de toute façon, le site
fait
100 mètres de haut.
Mais ce n'est pas dangereux. On ne risque pas de se piquer, se percer sur de la rouille.
Je ne recommande absolument pas d'aller à l'intérieur de l'infrastructure, même si c'est fascinant, parce que même de l'extérieur, vous sentez, vous percevez cette histoire industrielle qui a aussi marqué cette Belgique-là, mon cher Olivier.
Alors, plus tranquille, moi, je vous conseille d'aller à Louvain-la-Neuve, voir le musée dédié à Hergé. Magnifique musée signé Christian de Porzamparc. C'est une visite incontournable. Allez visiter cette ville nouvelle créée dans les années 60, incroyable, construite autour d'un campus universitaire, et aller visiter ce musée où vous allez découvrir toute l'œuvre d'Hergé, pas que Tintin évidemment, mais aussi les autres personnages comme Kuk et Fluk.
Parfait.
Un petit coup de cœur à Bruxelles, Jean-Bernard.
Un coup de cœur. Est-ce que vous êtes amateur de bande dessinée?
Ah bah oui.
Évidemment.
Écoutez, il faut aller à Bruxelles. Moi, j'ai adoré. J'ai fait le parcours à pied sous le thème de la bande dessinée dans la ville. Il y a des fresques sur les façades. C'est ça qui est fabuleux. Ça vous replonge dans votre enfance. On y voit Lucky Luke, Black et Mortimer, Ricochet. C'est vraiment le parcours à faire à pied au centre de Bruxelles.
Merci beaucoup Jean-Bernard Carrier, merci Olivier Pouls de vous être tant donné pour défendre ce pays fabuleux qu'est la Belgique.
Elle nous a bien vendu son pays.
Demain, on va vraiment changer d'ambiance. Nous allons partir pour la plus grande île tropicale du monde, en plein Pacifique, au pays des Papous, des forêts inextricables, des traditions hors du temps. C'est un voyage exceptionnel. Je vous emmènerai en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et en première heure, direction les Pyrénées-Orientales. Ça, c'est le pays des châteaux cathares, du mont Canigou et des baignades aussi au milieu d'une réserve naturelle marine extraordinaire au milieu des poissons. On vous racontera tout ça demain. Dans un petit instant, le grand journal du soir avec François Claus. Bonsoir François.
Bonsoir mon cher Philippe et merci pour ce beau voyage. Cette Belgique si proche, à la fois si exotique aussi.
Mais oui.
Et formidable. J'ai fait des études à Lille, c'est pour ça. Donc j'allais tous les week-ends en Belgique.
Et
forcément,
tous les Lillois partent à Lille faire la fête le week-end parce que c'est là que ça se passe.
En plus, j'ai voulu être journaliste en lisant le Lotus Bleu, donc vous imaginez le musée de Louvain, j'y suis allé plusieurs fois. Formidable. À demain, Philippe.
À demain, on adore tous la Belgique.
Bonne soirée.
Et Olivier Pouls.
C'était Et si on partait avec Shiva. Le voyage reprend demain à 16h, mais d'ici là, profitez de l'été avec Shiva, le spécialiste du ménage et du repassage à domicile. Shiva, on a tous besoin d'attention. Europe 1.